Attachez vos ceintures et vivez l'aventure automobile jusqu'à 22h sur Indestar.
Starter en direct et en podcast sur indestar.fr.
Mesdames, messieurs, j'ai envie de vous dire bonsoir. Voilà, parce que c'est circonstance.
C'est déjà pas
mal. Lundi soir, un peu plus de 21h, et comme tous les lundis soirs, vous retrouvez votre programme moteur, votre aventure automobile, moto aussi. C'est Starter avec Antoine, avec Teddy.
Oui.
Bonsoir les gars.
Bonsoir Théo.
Comment allez-vous? Ah bon, c'est gentil, on se pose mutuellement la question.
Bah oui, tu nous poses toujours la question, donc on te la poser. Comment
c'est
vas-tu, Théo?
Eh bah, ça va pas mal.
C'est vrai?
Oui, j'ai...
Cassé ma bagnole.
Non. Non, j'ai commencé à démonter. Alors, je suis en train de faire un grand changement de voiture.
J'ai cassé ma bagnole.
Mais même si je sais pas si je vais me séparer de l'ancienne. Je suis en train d'échanger des autoradios. Donc, j'avais un autoradio... très moyen.
C'est pas le truc qu'on faisait dans les années 2000 à piquer des autoradios dans les autres.
Non, attends, moi c'est par rapport à mes voitures. Hein. Je ne pique pas les autoradios des autres. Mais j'ai récupéré donc ma dernière voiture, la Honda Accord, avait un autoradio très moyen.
Ouais. Je t'ai dit, je vais changer ça.
Bah, en fait, j'ai voulu échanger l'autoradio avec celui de la 205 qui est très bon. Donc j'ai fait cet échange. Alors déjà, j'ai remis l'autoradio très moyen dans la 205. Ça, c'était la première étape.
Ouais.
J'ai enlevé aussi, j'ai un espèce de... comment on appelle ça, pas un amplificateur, mais un caisson de basse à plat qui se met sous le siège. Donc je l'ai enlevé de la 205. Et l'étape d'après, ça va être d'installer l'autoradio dans l'accord avec le caisson de basse et avec les haut-parleurs que j'ai acheté sur internet.
Soit.
Voilà, ça c'était ma petite activité du week-end.
D'accord.
Et vous, activité automobile ce week-end ou la semaine dernière ou pas?
Bah, ce week-end, non, pas trop.
Non. T'as dormi dans ta voiture?
Non, même pas.
T'as regardé des vidéos pour le sujet de ce soir dans ta voiture?
Oui, je l'ai écouté ce soir.
Ah, bah voilà. Faut bien trouver une activité automobile.
Ah, j'ai joué à la Switch dans ma voiture.
D'accord.
Et j'ai découvert que le volant de ma Alfa Romeo 166 faisait un très bon porte-Switch.
Ça a été conçu pour l'époque, Alfa Romeo s'est dit bon, la console n'est pas encore sortie.
Nous sommes dans le futur.
Ça tient pile poil dans le trou haut du volant et pouf, j'avais mes manettes dans la main et j'étais tranquille posé dans mon siège. Nickel, j'avais pas besoin de tenir la console parce que
Et bah voilà,
c'est lourd.
Ça, c'est une auto qu'on appelle ergonomique.
Exactement.
Voilà. Bon, on n'a pas réglé encore le problème d'autoradio par contre dans ta voiture.
Non, et puis bon, bah ça va rester comme ça.
Ah bah non, il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même.
J'ai fait monter mon frère dans ma voiture.
Oui.
Il s'en est pas rendu compte tout de suite.
Ah bah tu vois, ça se voit pas.
Ouais, ça se voit pas.
Alors que le bloc autoradio est quand même.
D'avancée de 2
cm. Il est quand même avancé de 2 cm. Hein,
mais
bon après, on peut se dire que c'est la finition italienne. Ça passe comme ça. Bon, en tous les cas, ce soir, on parle d'automobile. On va parler aventure et croisière Citroën. Et puis dans le garage, on y mettra une voiture berline comme tu les aimes, Teddy.
Ouais, je la veux.
Avec évidemment les brèves, les insolites et tout ce qui s'ensuit. Et je voulais signaler d'ailleurs, avant de parler des brèves, que vous êtes de plus en plus nombreux, on le dit chaque semaine, hein, mais à rejoindre la chaîne YouTube de Starter. On est plus de 210 cette semaine. Donc ça augmente, ça augmente.
Soit t'as demandé 200, on est passé à 210.
Ben oui, non mais moi je demande 10 000 moi maintenant. Ah ben j'ai les yeux plus grands que le ventre. Non mais allez-y, hein, vous allez sur YouTube, vous tapez, alors surtout vous mettez dans les chaînes, comme ça vous allez directement avoir le logo, vous tapez Starter et vous allez tomber dessus. Ou alors vous allez sur Google et vous tapez Starter Auto tout attaché et vous allez tomber sur le site internet où vous retrouvez toutes les vidéos de Starter.
Starter, le sondage.
Comme chaque semaine, on a un sondage dans Starter, une question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, sur notamment l'Instagram et puis le Facebook en story.
Eh oui.
Quel était ce sondage, Teddy?
Bâtard. Tout à l'heure, tu as même pas parlé de sondage, c'est parce que ça, t'avais oublié.
J'ai pas oublié. C'est juste que j'aime bien que le jingle le rappelle.
Oui, voilà, c'est ça. Alors oui, le sondage de la semaine dernière, qu'on se rappelle bien, c'était par rapport aux vieux, plus de 65 ans.
Non. Non, ça c'est celui qu'on va poser cette semaine.
Merde.
Ça sera le sondage de la fin de l'émission. Tu l'as
teasé.
Tu l'as spoilé, ouais. Non, le sondage de cette semaine était pour ou contre le contrôle technique en moto. C'est quelque chose, c'est un peu un serpent de mer, comme on dit, on en parle régulièrement de ça. Ça peut se mettre en place.
Surtout le motard qui en parle. Surtout le motard qui gueule, surtout.
Bah ouais.
Surtout
ouais.
Que ça fait un moment qu'ils mettent le motard.
Oui, ça fait un moment. Ça fait un moment.
Dû,
donc on vous a posé la question et vous êtes 50-50. Hein. C'est vraiment.
Comment ça? Qu'est-ce qu'a mis non?
Moi,
qui se dénonce.
Par exemple.
Tu es viré.
Moi j'ai mis oui.
Je crois que j'ai pas voté. Mais en tout cas, j'aurais mis non. Parce que Je vois pas encore une fois pourquoi j'aurais un besoin d'un contrôle technique sur mon Solex.
Oui,
qui, le pauvre petit,
je
avance
pense
à 30 km/h.
Tu es hors catégorie.
Mais non, je suis pas hors catégorie.
Si, parce qu'il considère un Solex comme une moto.
Mais oui, mais justement,
bah oui.
Ça veut dire que je serais pas hors catégorie. Je devrais.
Tu devrais être hors catégorie de moto.
Ah
bah ça, je suis d'accord.
Ah bah alors voilà. Bah
ah
voilà.
Oui, non, mais je suis d'accord.
Que je gueule
parce
pour
que
ça,
on vous a fait une émission sur le Solex. Effectivement,
oui.
Solex, ça avance à 25.
Oui.
Si tu pédales bien avec un vélo normal, tu peux aller plus vite.
C'est ça.
Pourquoi
il faudrait un contrôle technique?
Pourquoi ça serait une moto ce truc? C'est
donc on est
le
d'accord.
Problème vient là.
Donc rien
par
pour
contre,
défendre la cause du Solex.
Oui mais non.
Ben moi je dis il faut pas de contrôle technique en moto.
Je défends la cause du Solex mais je défends pas la cause de tous les motards parce qu'une moto qui va à 300 km/h, effectivement ça mériterait un petit contrôle technique de temps en temps. Ça peut ne voilà.
Ou alors t'as le droit les de mourir à 300 km/h.
Ah, ou alors oui, les jeunes mais... qui débrident leur 50 aussi.
Oui,
ah oui,
ça,
mais ça,
oui.
Non, mais attends, il y a quelque chose là, c'est
interdit.
Oui, c'est interdit.
Oui, mais ils le font quand même.
Là, non, mais d'accord, mais une voiture, c'est pareil.
Oui, mais vu qu'il n'y a pas de contrôle technique,
c'est plus difficile, effectivement, qu'il y a
ouais,
contrôle technique okay. De le faire.
Ah,
parce que les voitures aussi, ça peut être débridé,
le...
j'imagine.
Bah oui.
Non. Mais on le fait pas parce qu'on passe au contrôle technique tout le temps.
Si, tu peux le faire.
Ouais, mais faut le remettre.
Non, non, tu mets un petit boîtier. Bah non, parce qu'en fait, tout n'est pas détectable.
Je connais pas toutes les techniques de.
En voiture, par exemple. En fait, il faut pas que ça.
Apprends tout ce qu'il faut pas faire.
Non, mais et ne le faites pas. Bah, ne le faites pas parce que si vous arrive un non mais vraiment
c'est
parce
pas
que
bien.
Si vous arrive un accident et que il y a une expertise de fait sur la voiture et
vous
que la voiture était modifiée bah vous serez pas remboursé. Donc et si vous êtes dans un fauteuil roulant ça peut être grave.
Oui.
Mais cela dit dans une voiture si c'est un petit boîtier électronique par exemple, toutes les voitures sont électroniques aujourd'hui. Donc si on rajoute un petit boîtier électronique qui fait grimper la puissance de 30, 40, 50 chevaux et c'est imperceptible. Si ouais tu mets tu modifies tout ton moteur et que tu mets un moteur de Viper dans ton R5, oui là ok ça va se voir et ça va pas passer au contrôle technique. Mais si c'est le moteur d'origine et qu'on a rajouté des éléments pour renforcer la puissance, bah ça se verra pas, donc ça passera au contrôle technique.
Ouais, mais les motos mériteraient le même traitement que les bagnoles du coup. Parce que pour moi c'est la même chose. Par contre,
là, faut pas que
y a moto
parce
et
que
moto.
J'ai bien compris que vous
t'es
étiez
dans.
Ah non, moi je suis
pourtant,
à la fois pour et à la fois contre en fait.
Ah oui, d'accord.
Bon,
toi, c'est la Suisse lui.
Non, parce que je compte passer mon permis 125, donc ça pourrait être contre.
Ah voilà, c'est, en fait c'est selon les circonstances.
Ah mais est-ce que c'est justement ceux qu'on incrimine qui doivent se.
Non, parce que pour l'instant j'ai pas de 125 donc.
Tu peux pas être accusé, juge et tout ça.
Ah mais toi en fait tu prends parti quand tu te sens concerné, sinon bah les couilles. D'accord, non mais j'ai bien compris. Pourquoi pas. Bon, en tous les cas, merci d'avoir voté et d'avoir été nombreux pour le faire.
Starter, les brèves.
Quelques petites infos venant d'internet, enfin venant de l'actualité automoto. Qu'est-ce qu'on a
venant de mes yeux.
Alors venant de tes yeux. Ah oui, c'est vrai, c'était.
Ouais.
C'est une remarque pertinente que tu m'as fait tout à l'heure en antenne.
Ouais, ma brève est un peu spéciale, effectivement. Un jour, plutôt même dimanche. C'est ma copine qui conduisait son C4 de merde. allez, boum, ça s'est fait. On a eu un débat sur le C4 d'ailleurs, mais bon, ça on s'en fout.
Mais moi j'aurais un débat sur le masculin, le féminin, parce que tu dis toujours le C4, pour moi c'est une C4. Si, c'est un C4,
parce
si c'est un monospace.
Une Citroën C4, mais moi je dis un truc de merde.
Parce que moi c'est une berline, alors que sinon c'est un monospace. Donc un C4 Picasso, mais une C4, tu vois.
Mais c'est vrai que ça sonne bien les deux en fait. Parce qu'on pourrait dire une C4 par rapport à une Citroën C4.
Ouais.
Je trouve que ça sonne bien, mais par contre en tant que C4, je dirais un C4 c'est mieux.
D'accord.
Un C4-teur peut-être. Non, je sais pas.
Un C4-teur.
Mais bon. J'étais passager, donc je conduisais pas, voilà, et j'observais les voitures aux alentours des formations professionnelles de starter. oui, je le faisais pas avant en plus, hein, donc oui, forcément, c'est des formations professionnelles. Et je vois en face de moi un Ford Cuda.
Cuga.
Non, Cuda.
Ou Puma peut-être.
Cuga.
Ouais, et ben c'est ce que je me suis dit. Parce que je me suis dit, le Ford Cuda, ça n'existe pas.
Non.
C'est le Ford Kuga.
Ouais.
Et de là, on a suivi une longue série de recherches sur Internet en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Ford Kuga, je connais pas. Et il se trouve qu'en fait, c'est le Ford Kuga 2020. La typologie ou la forme de l'écriture, en tout cas du G.
À la police d'écriture, tu veux dire à l'arrière
ouais. Ouais.
Ressemble à
un D ou même un O, hein, mais pas un G. Hein.
Ah ouais.
Clairement.
Ah, ils ont mal joué leur coup marketing alors.
Je sais pas, mais je trouve ça drôle.
Parce que si tu confonds le D et le G, ça veut dire que c'est pas lisible.
Bah, si, c'est un Ford Cuda.
Là, faut que tu envoies l'ophtalmo.
Alors, peut-être que c'est un Ford
Cuda.
Pour l'été. Comme ça, le Cuda, la portière.
Oh. Peut-être que c'est juste un gars qui a modifié son Ford.
Ah oui, en tuning, tu sais, t'as bien un gars qui avait échangé les logos pour avoir un logo BM sur une Citroën.
Oui, j'ai même vu un logo
Ferrari. C'est le Jackie tuning moderne, il modifie rien à part juste une lettre.
C'est vrai que c'est subtil hein, pour le coup.
J'ai une voiture unique.
J'ai vu un logo Ferrari sur une Fiat 500 moi.
Ouais, bah tu vois, tout d'un coup elle gagne 50 chevaux la voiture.
Ouais, c'est clair. Il sert à rien ton boîtier, change de logo, c'est plus rapide. Mais bon, ouais, Ford Kuga, je sais. Alors, si vous êtes propriétaire d'un Ford Kuga, ouais, et pas Kuga, appelez-nous, hein, franchement, n'hésitez pas à nous appeler au 09 70 407 306 pour nous dire si vous avez ça sur votre Ford Kuga.
Ouais. Ou Kuda, pas, oui, parce qu'en fait, tu m'as dit que selon les versions, les restylages, ils ont changé après la police.
Parce qu'il y en a sur les Ford Kuga les plus vieux, enfin, ça dépend. Enfin, oui, 2020, c'est quand même assez récent, mais ouais, les plus anciens, ils ont le petit Kuga, mais tu vois, dans, en bas à droite, oui, ou en bas à gauche.
Oui, oui, là, c'est une sorte de barrette de chrome.
Ouais, barrette de chrome, écrit en chrome.
Ouais.
Pour moi,
déjà. Non mais déjà, une barrette de chrome écrite en chrome, non.
Bah, c'est ce qu'ils font sur les captures, je crois.
Bah, ouais, oui, mais tu vois pas le...
Oui, tu vois que dalle.
Tu vois que dalle. C'est... Ça, c'est quand t'es pas fier de ta merde.
Oui, non mais clairement. Ah, je suis pas fier de vous faire de Kuga.
Tu caches tout, tu caches le logo, tu caches tout.
Voilà, donc faites attention si vous suivez ce genre de bagnole. Non pas que c'est un danger, c'est juste que ça peut être marrant de repérer les Ford Kuga.
Ouais, c'est...
Bah, c'est le nouveau jeu à la mode, chercher les Ford Kuga.
Non, c'est bien, bonne observation. Antoine, toi t'es une moto.
Ouais, un scooter ce soir.
Un scooter électrique.
Et en fait, c'est l'ancien champion du monde de GP, Georges Lorenzo, qui va sortir son propre scooter électrique.
Attends, t'es champion de GP?
Comment tu fais pour
le mec fait quand même des virages, on en parlait l'autre fois, hein, des courses moto, etc. Ouais. À 300 km/h avec le genou par terre et tout. Et le mec il sort un scooter électrique.
Oui.
Non. Ça c'est tu finis mal ta carrière. Pardon.
Attends, non, il a fini bien, il a envie.
Ouais.
Oui. Et ouais, bah, sa carrière s'arrête à 30-40 ans quoi.
Oui, bah oui. Mais...
Forcément. Ah, mais tu faut faire autre chose dans sa vie après.
Et pour te dire, tellement
faut pas
que, tellement que la personne a une grosse tête, sur le scooter il y a marqué JL, ses initiales du gars.
Ah, bah oui, bah autant. Autant mettre sa merde partout. Oui, et il est bien ce scooter?
Il roule à 45. Moi, bon, scooter normal. Hein.
Pardon.
Oui, oui, c'est un 50. Ouais.
Et mic électrique, bah 600 watts, je crois, batterie.
Ouais.
Kilowatt peut-être. Parce que 100 kilowatt, watts, tu vas pas aller loin.
Kilowatt.
T'éclaires tes phares et encore.
Il y aura phare à LED et 60 km d'autonomie.
D'accord.
La top casse aussi à l'arrière.
Ok.
Mais y a pas de prix.
C'est pour mettre des trucs dedans.
Ah ouais, d'accord. Mais...
genre faire des petites courses au supermarché, tu t'achètes deux yaourts, tu mets ça dans le top.
C'est chiant les motards hein, pour les.
Deuxième pour faire les courses. Ah, c'est pas top, hein, on est d'accord.
Ouais,
ah,
ça dépend. Même pour le pain, parce que on va rappeler encore une fois, je suis boulanger. Et il y a souvent les motards, ils demandent à couper leur baguette en deux parce que ça rentre pas.
Ça rentre pas dans le top.
Bah, tu manges pas de pain, mais tu te démerdes.
Bah, dis-toi qu'en scooter.
Mais c'était le petit pain, tu sais.
Bah ouais.
En scooter, j'arrive à faire des courses de 20 ou 30 euros quand même. Et à transporter.
Ouais, bah 20 à 30 euros, c'est que dalle.
Ah, mais il
les courses d'après-midi, j'en ai eu pour 200 balles. Heureusement que j'ai un coffre.
Ouais, pareil. Je
me suis retrouvé avec un pack Coca-Cola, puis un pack d'eau. Sur
entre les gens.
Ah non, après, ça, c'est les
pas, ça.
Ça, c'est les Indiens qui sont en moto, ça. Tu vois.
Ça rentre pas dans le coffre. Hein.
Non, ça rentre pas dans le coffre. Non, mais voilà, c'est vrai que tu fais les petites courses pour les deux jours à venir, mais tu fais pas les courses du mois pour la famille entière.
C'est clair.
Moi, j'ai une brève Renault. Renault qui nous avait teasé une photo il y a quelques jours d'un revival de la 4L où on voyait en vrai pas grand chose. Hein, c'était dans le noir. Ouais. On avait juste les phares ronds qui.
Certains éléments, ouais.
Ouais, mais déjà, je trouvais qu'avec les phares, c'était déjà plus sympa que tous les concepts qu'on nous sert depuis quelques mois. De quoi?
J'ai cru que t'allais nous dire juste avec les phares c'est trop.
Non. Non mais tu sais on voyait des concepts depuis un moment sur la future 4L qui était dégueulasse. Bah là pour le coup le concept qui a été dévoilé ressemble à une 4L à un détail près, c'est qu'elle vole.
Ah, j'ai cru que t'allais dire qu'elle est électrique mais.
Alors elle est électrique aussi. Mais oui. Surtout elle vole. D'où le R4 AIR.
Comment ça elle vole?
Elle le vole parce que c'est en fait c'est une carrosserie en fil de carbone.
Ouais.
D'une 4L qui est c'est plutôt joliment redessinée et qui est posée sur un gros drone. Un énorme drone de la taille de la voiture. Donc il n'y a pas 4 roues, mais il y a 4 hélices. Ah, c'est un concept, hein, mais chaque hélice peut supporter 95 kg. Donc impossible de partir en vacances comme moi avec tout l'aménagement à l'arrière, etc. Mais une personne, il n'y a qu'un siège à l'intérieur. Hein, peux pas y aller à 2, 3, 4, mais tu as un siège. Et ça fonctionne parce qu'on parlait des concepts de car.
Oui, c'est normal. Il y a des gens, ils ont fait des baignoires en drone, hein, donc oui. Une 4L en drone.
Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, quand on parlait des concept cars, on disait que bien souvent c'était juste visuel. Et là, ils l'ont testé. Ils ont été en Italie. Ils l'ont fait voler. Alors, ça va à une vitesse de pointe de 93 km/h, donc assez rapide hein, quand même. Ça peut s'incliner à 70 degrés. Tu dois flipper
un peu.
T'es pas emmerdé par les bouchons. Non, mais voilà, en fait, je sais pas ce qu'il faut retenir de tout ça. Et d'ailleurs, Renault en parle pas forcément. Mais peut-être que, juste au niveau stylistique, ils vont reprendre des pistes. Et ça serait plutôt bien. Parce que je te dis, par rapport au concept que j'ai vu, qui avait rien à voir avec une 4L, à part le dessin de la custode, c'était un peu tout près tout. Là, il y a vraiment c'est une 4L moderne en fait. On retrouve vraiment les éléments de la 4L.
Mais t'as quand même plus aérodynamique que la 4L comme forme.
Ah oui, complètement. Ah oui, oui, complètement. Non, là, on va dire qu'il y a certains éléments qui ont été modifiés. Je pense que le pare-brise est un peu plus incliné, etc. Mais ça reste pas très aérodynamique. Oh, non, d'accord, la 4L c'est un parpaing. Mais soit il y a des éléments stylistiques qu'on retrouvera sur la future 4L, ou alors on peut se dire que peut-être une idée un peu plus délirante, que la voiture volante qu'on rêve depuis 50 ans, peut-être qu'un jour ça finira par voir le jour. Après, est-ce que j'ai vraiment envie de voir des gros drones au-dessus de ma tête?
Oui, c'est des 4L.
Dans mon jardin.
Oui, oui, c'est des 4L.
Ouais, mais un gros insecte au-dessus de ma tête, je suis pas fan non plus du concept. Par contre, éviter les bouchons en étant dans cette voiture, oui.
Ah, ça, ouais.
Alors moi, oui, mais les autres, non, tu vois.
Et puis t'imagines, on se met tous à avoir des drones 4L. Ça va être une galère.
Ouais, ça peut être une galère, ouais. Ouais. Mais là où on va, on n'a pas besoin de route.
Starter. Sur Indestar.
Sur Indestar.
Évidemment sur indestar.fr et nulle part ailleurs. Alors si, sur toutes les plateformes d'écoute internet, finalement, tous les annuaires d'écoute en ligne. Et puis en podcast hein, aussi, puisque vous pouvez réécouter cette émission, par exemple, après-demain, à 2h du matin, sur votre scooter. Pour cela, vous avez Spotify, vous avez Deezer, vous avez Podcast Addict, vous avez Google Podcast, vous avez...
Podcast.
Bidule Podcast.net, ça marche aussi certainement. Voilà, bon, en tous les cas, l'aventure automobile, ce soir, on va partir, mais... Non pas dans une aventure automobile, mais dans 4 aventures automobiles. On vous en donne 4 fois plus, un peu le Black Friday made in Indestar ce soir. Aujourd'hui dans Starter, donc l'aventure des croisières Citroën qui ont duré 24 ans, entre 1920 et 1934. Une aventure humaine, scientifique et surtout commerciale. Orchestrée par un certain André Citroën, qui est le père fondateur de le Citroën, hein, le dirigeant aussi, et une aventure, enfin des aventures qui n'auraient pas été possibles sans un certain Adolphe Kégrès, qui est un ingénieur français, qui a été parti travailler au début du XXe siècle en Russie, là où il fait froid, là où il y a de la neige, donc là où on a besoin de chenilles. Et d'ailleurs, le tsar, à l'époque de Russie, lui a demandé de concevoir un véhicule avec des chenilles. Et c'est avec ce principe-là qu'il va reprendre et perfectionner à son retour en France, quand Citroën va l'embaucher pour créer son unité tout-terrain, c'était en 1919. Il va développer justement le principe de l'auto-chenille.
Le véhicule à chenille.
Exactement. Et là, très vite, André, voyant les possibilités de cet engin, va se dire que les capacités de franchissement de ces chenilles, si on les combine avec ces voitures, ça pourrait être une superbe vitrine si on réussissait à relever des défis d'aventure qu'aucun engin actuellement roulant n'avait encore fait. Et surtout qu'on en parle un max, hein, parce que je rappelle que notre André Citroën, c'est
comme,
un peu...
Comme.
Oui, c'est Mister Pub. C'est lui, on en avait parlé quand on avait fait l'aventure Renault, qui avait éclairé la Tour Eiffel à son nom. Ça, c'est en 1925. Donc voilà, c'est un monsieur qui sait vendre sa marque hein, chez Citroën. Il va mettre en point donc un engin qui fait 4 mètres de 11, donc relativement compact, qui peut embarquer 4 passagers, avec 2 roues classiques à l'avant et 2 chenilles qui sont sur coussins de caoutchouc à l'arrière, donc qui est quand même vachement plus silencieux que si elles étaient en fer comme dans les engins de guerre, hein, comme sur les chars. Une petite bâche au-dessus pour se protéger des coups de soleil ou des intempéries. Et puis à l'avant, un espèce de rouleau qui va permettre de franchir des obstacles facilement. Ça sert en fait de troisième roue.
Ouais,
tu sais, t'arrives dessus, tu dis « Ah, ça bloque », t'accélères et hop, ça monte. On devrait tous avoir ça sur notre voiture, ça serait pratique.
Ouais,
tu sais, quand t'es dans les embouteillages, hop, tu passes par la voiture.
Ouais, mais imagine un piéton, bah, tu le passes aussi. Hein.
Et bah, le piéton, tu le passes dessus.
Ouais, clairement. C'est moins cool pour la sécu.
C'est avec ça, en tous les cas, en 1922, que débute la croisière des sables, parce que c'est dans le sable, dans le Sahara, très exactement. En fait, on part de Tougourt, qui est une ville algérienne. Alors je rappelle qu'à l'époque l'Algérie est une colonie française, hein, donc c'est facile. Et on va direction Tombouctou au Mali avant de revenir à Tougourt. On fait un petit aller-retour, petite traversée du Sahara en Citroën 10 HP, quel modèle Citroën de base à l'époque, sur chenille donc, hein, qui est une réussite. D'ailleurs André Citroën fait partie du voyage.
C'est bien rare ça.
Oui, mais bah là non mais vraiment il voulait. Et puis quand il revient à Paris, c'est l'apothéose. Tout le monde le reçoit, il kiffe. À tel point qu'il se dit hey, c'est
on va recommencer.
Parce qu'on parle de moi, donc on va bah oui. Et recommençons encore plus grand. Il va proposer. Alors, il va déjà avoir l'idée de proposer une sorte de voyage organisé, réservé on va dire, aux influenceurs de l'époque. Alors, ils étaient pas sur Insta, mais c'est l'idée. à la presse hein, aussi, pour traverser le désert avec des points relais à chaque étape.
Et elle a inventé le Paris-Dakar.
Alors, c'était pas le Paris-Dakar, c'était pas une course, ouais. Mais c'était l'idée. Regardez, montez en Citroën, vous allez pouvoir traverser le désert et kiffer votre life. En gros, c'était ça l'idée. Sauf que le gouvernement français, il a mis Léola, il a dit. Et tu te cannes tout de suite, André. Il va y avoir des gens qui vont clamser dans le désert. Donc, si tu veux y aller, il n'y a pas de problème, mais vas-y tout seul. Tu vois. Alors, en gros, c'était ça. Donc, il n'a pas le choix d'abandonner. Cela dit, il va quand même faire traverser une auto-chenille sur l'entièreté du Sahara. Parce que, déjà pour prouver qu'il pouvait le faire. Et puis en plus, à côté, il y avait Louis Renault qui voulait faire la même chose. Donc, il voulait pas paraître ridicule par rapport à Louis. Donc, voilà, c'était quand même les deux grands ennemis jurés à l'époque. Hein, donc,
on se démonte pas, on y va.
Exactement, il l'a fait. Mais André en veut plus, avec toujours cette obsession publicitaire, sous couvert de recherches scientifiques, humanitaires et compagnie. Je pense que si. Ouais, non, mais en vrai, je pense que si l'écologie avait été tendance à l'époque, il aurait pu faire dire que ça allait sauver la planète, tu vois. c'est pas pour le démonter, mais il y avait. Bon, y avait, évidemment, c'était pour sa marque, hein, avant toute chose. Il va améliorer ses auto-chenilles et ils vont en lancer 8 d'entre elles. Dans 20 000 km de désert, de brousse, de savane, de marécage entre l'Algérie et l'Afrique du Sud et même Madagascar, parce que c'est la volonté du président de la République à l'époque, il adore Madagascar, ouais. Ça fait aussi partie des colonies françaises.
Il s'est dit, il va traverser l'océan.
Ouais, bon, après ils y sont allés en bateau, bon, quand
bien
même.
Sûr.
Mais le président français voulait Madagascar, ok, on va à Madagascar. Bon, voilà. Alors ce nouveau défi, ça s'appelle la croisière noire et ils partent d'Algérie le 28 octobre 1924. Comment ça s'est passé, Antoine? Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette croisière noire?
Bah, beaucoup de choses déjà.
Oui, ça, j'imagine.
Merci Antoine.
Merci Antoine, oui. On passe à la suite. Non.
Donc ils sont partis en 1904.
Oui.
Donc il y a eu 8 voitures. Je peux citer le nom des voitures, je les ai notées.
Ils ont des noms?
Oui, ils ont des noms
les voitures.
Selon quel équipage est à bord de quelle voiture, tu vois.
Alors, il y a Pégase, éléphant à la ours.
Ouais. On est d'accord que Pégase, normalement, il vole.
Oui.
Et là, ça, c'est rapide aussi, parce que l'autre, éléphant à la ours, ouais.
Ah, éléphant, il va moins vite.
Il y a Scarabée d'or.
Ah, c'est joli.
Ça peut être joli.
Soleil en marche.
Oh, c'est joli.
Mélenchon, es-tu là? C'est Mélenchon, ouais.
Non, en marche, c'est Macron, c'est
oui,
notre président.
Oui, c'est Macron,
il y a Escargot ailé aussi.
Ah, mais Escargot, il va moins vite, par contre.
C'est taureau ailé, le rire. C'est pas...
non, je... Ah, croissant d'argent, voilà.
Croissant
j'arrive
d'argent.
J'arrive pas à me relire, autant pour moi.
Patrick, c'est pas chocolatine.
Il y a Colombe et Centaure.
D'accord, ok, donc ça, c'est les noms des voitures. Bon, très bien. Qui, dans la croisière jaune, en tout cas, auront une connotation par rapport à l'équipage qui sera présent lors de cette. Dans chaque voiture, tu vois.
Je sais qu'ils avaient même des citations sur les carrosseries.
Pour leur donner du courage.
C'est ça, hein, parce que oui, ils vont en avoir besoin dans la croisière jaune. Mais bon,
alors, anecdote.
C'est la croisière
noire. Oui, alors les anecdotes. Alors, bah, tu l'as dit tout à l'heure par rapport au président français qui voulait que ça passe par Madagascar.
Donc on a.
Par contre, le président belge, il a fait moi, vous le faites, mais il faut que vous passez par le Congo belge.
Ah, mais ils sont chiants, hein, le président.
Non, mais
ils ont qu'à y aller aussi. Hein.
Non, mais ils ont des melons.
En même temps, c'est dans l'avantage de Citroën de le faire.
Oui, ah bah oui, c'est dans l'intérêt, bien sûr.
Et si je te sors 27 000 et 2 000?
Je dois deviner à quoi que ça correspond.
Ouais.
27 000, c'est le nombre de litres de carburant.
Non, mais moi, il faut penser plutôt aux équipages qui étaient dans les voitures.
C'est le nombre de pièces de bagnole.
Non.
C'est le nombre d'outils.
Non, en fait, 27 000, c'est le nombre de pellicules qu'il a fallu pour faire des vidéos.
Ah oui.
Et 2 000, c'est le nombre de pellicules photographiques.
D'accord, donc tout ça, c'est par rapport au film qui a été produit par la suite de cette croisière.
Et qui ont aussi utilisé les photos pour les livres.
Oui.
Oui.
Oui, parce qu'il fallait garder une trace évidemment de tout ça, et puis c'était encore une fois dans l'intérêt de Citroën.
Ils avaient aussi un peintre, notamment dans la. Enfin, moi je sais qu'il était dans la croisière jaune, mais il devait être aussi dans la croisière noire parce que c'était pas son premier rodéo.
Oui, c'était le même.
Il s'appelait Alexandre. Oh putain, non, pas le nom russe.
C'est pas peintre en bâtiment, hein, on est d'accord, il était. C'est vraiment un peintre.
Non, il était pas peintre en bâtiment, il était. Oui, sans doute russe, hein, parce que. Yakovlev.
Ah oui, ça sonne
bien russe.
Ah, oui, effectivement.
Et effectivement, ce gars-là a été important pour la plupart de ses voyages parce qu'il illustrait, il dessinait et il était un peu la mémoire, entre guillemets, à part les œuvres cinématographiques.
Ouais.
Mais les œuvres cinématographiques, ils n'étaient pas la mémoire de la culture des pays qu'ils traversaient.
Oui.
Il filmait surtout, on va dire, commercial pour ses trucs. Surtout.
Oui, oui, oui.
Voilà. Mais lui, il était plus autre chose.
D'accord.
L'histoire a vécu, quoi.
Je code les autres anecdotes aussi. Il y a un mécanicien qui a dormi par terre. Et pourquoi c'est. Bah, c'est parce qu'il était en pleine traversée.
Ouais.
Et il dorme par terre. Puis tout à coup, il entend un petit sifflement.
Un serpent.
Oui, c'était une vipère qui était à cornes, qui était juste à côté de lui.
D'accord. Enfin, il s'est pas fait piquer.
Non, il s'est pas fait mordre.
Ok.
Il a croisé un serpent.
Mais le pire, c'est le lendemain, il se réveille. Bah, l'équipage se réveille. Ils repartent. Et là, il tombe sur quoi ? Sur des squelettes, sur des ossements humains et des vêtements déchirés.
Aïe ! Alors, c'était le serpent qui avait.
Ça, on sait pas.
Ah, on sait pas, personne ne le saura.
Mais attends, ils doivent le savoir s'ils ont perdu des camarades.
Ah non, non, ça devait être. C'était mais pas de l'équipage.
Pas l'équipage,
ah, non, quand même.
Des ossements.
C'est certainement pas les serpents.
Hein. On n'était pas un peu plus nombreux au départ ? C'est normal qu'on ait que trois.
C'est qui manque à l'appel ?
Sans doute Pierre.
Oui, sans doute Pierre, ouais.
Aussi, le. Pardon. Quand ils sont partis ? Quand ils sont partis de Marseille.
Oui.
Donc là, je reviens avant.
Ah oui, parce que là, on est parti d'Algérie. Moi.
Oui, donc là, je reviens avant.
Ouais.
Donc là, vu qu'ils sont partis de Marseille, ils ont fait aucun bruit. Genre, ils savaient pas, personne ne savait qu'ils partaient. Enfin, que l'équipage savait qu'ils partaient.
Ah, ils ont été discrètement, en fait.
Ouais, parce qu'ils voulaient pas faire soupçon par rapport aux journalistes et à Louis Renault qui voulait faire le trajet avec.
Oui, voilà, c'est pour que. Ouais. Que Louis Renault ne sache pas ce qui se trame et après. Oh, ils sont vachement forts chez Citroën. C'est l'idée.
On va faire la même chose.
Oui.
Ça doit être plus pour ça. Ouais.
C'est tout pour moi.
Ah d'accord, très bien. Non mais alors quand même, globalement, ce qu'on peut dire hein, de cette expérience, parce que là on a quelques anecdotes, mais et surtout de la croisière noire qui était la vraie première grande
expédition ouais. Bah ouais, elle est plus grande que Citroën. La deuxième. Hein. Ils ont fait 20 000. C'est long.
C'est très long. C'est très long. Et ils sont passés dans des territoires qui étaient, alors je vais pas dire inexplorés dans le sens où il y avait forcément des autochtones qui y vivaient et qui avaient vu les lieux.
Inexplorés pour nous.
Mais pour nous Européens, c'était la première fois qu'on s'aventurait là-bas. On n'avait aucune information ni sur les peuples ni sur la topographie du terrain. On a fait des tas de rencontres avec des populations et puis
ça s'est bien passé en règle générale.
Ça s'est bien passé malgré le
la typologie du terrain, des fois, ouais, c'était chiant.
Ouais, et puis le fait que bah les peuples, enfin, on est quand même à une autre période, hein, c'est-à-dire que personne se connaît. Il
oui.
y a une méfiance, mais il y a une méfiance qui a très vite été apaisée. Alors déjà, je pense par le fait que l'équipe soit plutôt avenante, quoi. Ils arrivaient pas en combattant.
Et puis la diplomatie, effectivement, de l'équipe, parce que.
Et puis par les machines. Parce que
ouais, c'est intriguant.
Il y en a, c'est la première fois qu'ils voyaient des véhicules.
Mais c'était la première fois qu'ils voyaient des véhicules. Mais non, mais c'est ça. Ils disent qu'est-ce que c'est que cet engin ? Ça fait un peu extraterrestre, tu vois.
Que le bruit que ça devait faire en plus à l'époque.
Bah forcément, hein, Toshoni, ça fait un peu de bruit. Mais c'est surtout les autres, ils avaient l'habitude de voir des dromadaires, des chevaux, etc. Mais pas des autres Toshoni. Donc.
Toi aussi, il y avait des chevaux, mais différemment.
Oui, bah là, il y avait des chevaux dedans, là. dans la Citroën.
Je te l'échange contre trois gros dromadaires.
C'est ça, exactement.
Je pense qu'il y a dû avoir ce genre d'anecdote aussi.
Ouais, non, mais. Ouais, peut-être. Il y a dû avoir du troc de fées. Non, mais. Il faut voilà, vraiment se replacer dans le contexte de l'époque et surtout sur cette première traversée où c'est vraiment de la découverte pour même par rapport aux cartes. Hein. Les cartes, on avait des cartes très approximatives. Là, ça a permis un petit peu de dire ah ok, le désert il commence à cet endroit-là.
Ils ont tracé un peu une route en soi.
Ouais, c'est ça. Il fallait. Ils ont rapporté pas mal de choses. Alors. Tu le disais, hein, Teddy, l'aventure elle a été dessinée, peinte par un membre de l'équipe.
Alexandre, je sais plus.
Elle a été compilée dans un film par une équipe de tournage qui est partie dans l'expédition. Je rappelle qu'on est en 1925, hein, donc c'est une première. Il n'y avait pas les vlogs YouTube hein, à l'époque, donc le film est sorti au cinéma, tu vois, en grande pompe, etc. Alors évidemment, avec le recul, on pourra critiquer que. Dans le film, on va éclipser une partie ou embellir certaines scènes.
Oui, mais en même temps, faire ça dans l'aspect commercial.
Bien sûr, et puis c'est du cinéma, tu vois, ça a un côté documentaire, mais ça reste du cinéma, la gloire de Citroën. Donc voilà.
Et puis tout, les bons côtés, ouais.
Toutes les pellicules, tu t'en parlais Antoine, ouais. Toutes les pellicules, tout ce qui a été filmé, ça a servi aux scientifiques qui ont fait des rapports ethnographiques, donc sur la vie des gens dans leur milieu. Ça a permis d'analyser aussi la faune et la flore, d'analyser la topographie des terrains, réactualiser, on le disait, les cartes.
Culturellement parlant, ça a servi, scientifiquement parlant, oui. Ça a servi.
Et il y a eu des rapports qui ont été rendus au gouvernement, des rapports économiques, politiques, sanitaires, touristiques. Voilà, on en sait un peu plus grâce à cette première.
C'était une expédition, comme toute expédition, sur la découverte, des retours, etc.
Ouais. Et il y a un enjeu politique, hein, on se cache pas dans cette traversée. On sait parce qu'il y a eu après.
La croisière noire.
Forcément, c'était un succès. Donc, André, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit bah, allez,
on recommence ! On la refait ! Mais ailleurs.
Maintenant, voilà, l'Afrique, on commence à connaître. Donc, si on partait sur la route de la soie, donc c'est-à-dire en Asie.
Plus loin, mais moins longtemps.
Un peu moins longtemps, c'est vrai.
12 000.
Bon, cela dit, ça se passe pas comme ça, évidemment. Il va falloir quelques années pour préparer le terrain, faire du repérage, demander où on peut monter des campements pour faire des points d'étape, et puis avoir les autorisations aussi de tout, parce que vous imaginez en Chine, vous voyez le régime actuel de la Chine.
C'était pas le même à l'époque.
C'était pire.
Ils étaient en pleine guerre civile de base. Et heureusement qu'ils avaient un compagnon, on va dire, un certain Pierre Taillard, le père Taillard, qui est un prêtre jésuite, qui était, paléontologue, géologue, j'ai oublié la suite. Beaucoup de choses, mais en Chine.
Et qui a fait aussi un petit peu le...
C'était le garant.
Porte-parole, quoi.
C'est oui, on va vous faire une croisière jaune, on va se balader avec nos trucs, nos véhicules. Mm. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tu me connais, si.
Ouais. Non, mais ça passe mieux.
C'était exactement comme ça.
Parce que la libre circulation.
Sans lui, il aurait sans doute pas fait.
Oui.
Il se serait fait arrêter.
Et puis, il a fallu accepter quand même un certain nombre de contraintes, notamment le fait des contraintes par rapport à ce qu'il voulait faire. Hein. Il a fallu accepter des Chinois dans l'équipe. Hein, à l'intérieur de l'expédition. Et puis il y a certaines choses, ils voulaient pas trop quoi, les fouilles archéologiques. Ils étaient pas très chauds. Bon, ils l'ont fait quand même apparemment. Cartographie pareil.
Ils coopéraient au final dans le but, on va dire, ça servait les deux nations. Oui.
Mais c'est vrai qu'au départ ils étaient, ils voyaient ça comme une invasion en fait, hein, tout simplement. Donc
c'est vrai que ça pouvait être un peu mal vu. S'ils avaient besoin d'un garant, c'est forcément que.
C'est ça. Ouais, ouais.
Généralement, on demande un garant quand c'est bof.
Alors une fois que tout le monde était d'accord sur les modalités, et notamment les soviétiques, parce que c'est vrai que ça a failli, tout a failli capoter. Seulement 3 mois avant le début de l'aventure, au début, ils devaient faire qu'un seul tracé. Et puis finalement, avec les Soviétiques qui n'étaient pas trop d'accord,
ils étaient obligés de se séparer en deux équipes.
Ils se sont séparés pour au final faire 12 000 km, hein, si on additionne les deux, à travers l'Himalaya, le désert de Gobi, la Chine. Il y a eu 14 auto-chenilles qui sont sur la ligne de départ le 4 avril 1931. Donc vous voyez, on est quelques années après quand même la croisière noire. Avec à bord presque 50 personnes, donc il y a des scientifiques, il y a des journalistes, il y a des archéologues, des géologues, des géographes, des histographes,
des
docteurs naturalistes, cinéastes, des techniciens TSF aussi, parce qu'on va enregistrer le son pour la première fois, mécaniciens, le tout divisé en deux groupes, donc un qui part du Liban pour aller en Chine, après ils se rejoignent tous à Pékin au final.
C'est ça, normalement.
Donc lui il part du Liban, le premier groupe, pour aller en Chine en passant par la Syrie, l'Afghanistan, les Andes britanniques et le Cachemire, et l'autre il part du nord est de la Chine pour aller dans le nord-ouest, ce qui fait à peu près 5000 km, dont 3000 km de désert. Donc ça rigole pas. Ça, c'est la croisière jaune. Hein. Donc, Teddy, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette croisière jaune? Ça a été plus simple, pas plus simple que la croisière noire? C'était comment?
Chacune de ces croisières ont eu son lot de difficultés, j'ai envie de dire. Même si je pense que climatiquement parlant, si on peut dire ça, si climatiquement parlant existe,
c'était plus rude.
C'était plus rude sans doute parce qu'ils étaient arrivés en Chine. Guerre civile déjà, donc assez inhospitalier. La nature les a pas aidés, c'était en hiver.
Ouais.
Aussi, quand ils étaient.
Ils sont cons aussi, ils auraient pensé.
je parlais du premier groupe parce que du coup, ils étaient deux groupes distincts. Alors, ils communiquaient peut-être d'une certaine manière, je sais pas.
Je pense que oui, avec André Citroën, ils arrivaient à communiquer.
Ouais.
Donc, parce qu'André Citroën ne participait pas ni à la croisière noire ni à la croisière jaune, mais il avait les infos et il pilotait les informations un petit peu à distance. Quoi.
Et effectivement, Pierre Taillard, le prêtre et chef d'équipe. Chef d'une équipe en tout cas, c'est lui qui était un peu le porte-parole et qui parlait en tout cas aux diplomates chinois pour la bonne entente de ce projet en tout cas. Donc Pierre Taillard, paléontologue, géologue et ainsi de suite, lui il avait déjà fait plusieurs voyages en Chine, ça l'intéressait surtout au niveau géologie. Il adore déterrer des fossiles, clairement.
C'est une passion comme une autre.
Oui, c'est ça. C'est un religieux à la base, mais qui s'intéresse à la théorie d'évolution. Et quand je dis qu'il s'y intéresse, c'est qu'il y croit, en fait. Ce qui est assez innovant.
Oui, l'idée, c'est pas se dire tiens, c'est Dieu
qui
a
pondu
l'homme.
Ouais, voilà, c'est non, ça a évolué. Peut-être qu'il y a eu des trucs un peu bizarres à l'époque, un mix entre les deux, tu vois, mais. Lui, il était quand même plus à notre époque, similaire à nos pensées actuelles. On descend d'un poisson, ainsi de suite. Ce genre de conneries.
Non, je ne descends pas d'un poisson.
C'est sûr que vu ta façon de nager.
Hey, je suis poisson. C'est gare.
Mais oui. Alors, Pierre Taillard, lui, ce qui l'intéressait, c'était surtout la Chine. Donc, c'est pour ça qu'il a fait le plus petit trajet. 5000 km, ça va?
Oui, c'est quand même du bon petit trajet, surtout dans le désert. Quoi.
Il est passé de site archéologique en site archéologique pour découvrir des choses, voilà. C'était plutôt sympa, c'était la bonne période.
Bonne franquette.
Même si, effectivement, il a traversé quand même le désert, avec l'autre équipe, parce qu'ils se sont rejoints juste avant. Le désert de Gobi. En plein hiver.
Ouais, c'est ça, parce que
c'est moins 30, hein.
Oui, c'est ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans,
dans
l'imaginaire collectif, que le désert c'est chaud.
Ouais, t'as deux types de désert. En
là,
fait, désert ça veut pas dire c'est chaud.
Non.
Désert ça veut dire que t'as rien.
Oui.
Et tu peux avoir rien froid et rien chaud.
Là, on est sur le rien froid.
Le rien froid, donc moins 30. Pour vous dire, les soupes, il les faisait bouillir en 30 secondes, regelé. Donc t'avais 30 secondes pour manger ta soupe.
Et encore, ouais, si tu la voulais pas froide, il fallait 2 secondes et demie, quoi.
Oui. Et on avait le droit de se poser une autre question. Les véhicules étant en métal, les mécanos, bah faut bien qu'ils avancent, faut bien qu'ils touchent au véhicule et tout ça. Du métal froid, qu'est-ce que ça fait quand tu mets ta langue sur un poteau gelé?
Ça colle.
Ça colle.
Ah, je mets rarement ma langue sur un...
C'est vrai.
Un poteau gelé, mais
c'est vrai, mais c'est dans l'imaginaire collectif.
C'est quand t'es bourré, surtout.
Oui, c'est vrai. Faut vraiment être con pour moi. Mais du coup, eux, ils mettaient juste leurs mains, en fait, et leurs mains, la peau
s'arrachait.
Ouais. Donc, bah, ils ont dû faire l'expérience au moins une fois, j'imagine.
J'en
Après, ils ont plus fait ça.
Heureusement qu'il y avait des docteurs sur place.
Heureusement qu'il y avait des docteurs. Il y avait de tout. Donc, Pierre Taillard, très important pour cette expédition. Il a même dessiné des cartes géologiques. Plus géologiques que... Je sais pas comment on peut dire.
Ah oui,
géologique, tu sais,
géographique. Ouais, que géographique.
Voilà, oh, c'est beau. Donc, oui, très important. Mais ça, c'était pour la première expédition et c'est qu'une petite part. Ils ont pas eu de. Comment dire de peintre ou. Enfin, ils ont pas eu. Ils ont pas eu Alexandre avec eux.
Non.
Alexandre,
ils pouvaient pas
un
être partout en même temps.
Ils pouvaient pas être sur les deux, effectivement. Même si au bout. Enfin, sauf quand ils se sont rejoints, évidemment. Du coup, on a eu peu d'informations sur comment ils l'ont vécu.
Ouais.
Mis à part le film, évidemment, il y a les infos du film, mais ça donne pas de grand vécu de ce qu'ils ont vécu.
Oui, c'est on comprend
moche.
L'idée. Ouais.
C'est très moche ce que je viens de dire. Mais non, ils faisaient partie de la deuxième équipe qui, elle, était dirigée par Hart. Je me rappelle plus de son nom.
Georges-Marie Hart.
Georges-Marie Hart. Mmh. Je sais pas pourquoi je veux pas le retenir.
Ouais, mais tu as pas besoin de le retenir très longtemps parce qu'il va lui arriver des bricoles, je crois.
Il va peut-être mourir à la fin. Oui, alors Hart qui va mourir en 32 d'une grippe sur le chemin du retour.
Pneumonie, moi j'ai.
Grippe, pneumonie.
Ah bah c'est pas pareil.
Ah ouais. Ça se rejoint pas mal quand même.
T'as froid quoi.
Oui, enfin bon.
Il faisait froid, il est mort. C'est con. Et en plus, ils avaient fini, c'était sur le chemin du retour. C'est voilà. Mais bon, ça c'est
con. Ah ouais, ouais.
Mais avant de parler à sa mort, d'ailleurs, chose très importante, avant même qu'il meure, il avait déjà enregistré une vidéo que Citroën a vue quand ils sont arrivés. Ça c'est important de le voir parce que c'est le dernier témoignage.
Il disait quoi je vais mourir, non?
Non, il disait je vais bien, tout va bien. Ah non, c'est, non, enfin, il va bien.
Ça va beaucoup.
Parce qu'une pneumonie, t'es là, je vais.
C'est compliqué. Non, mais non, il toussait même pas en plus sur la vidéo parce que j'ai vu le bout de la vidéo qu'il a envoyé. Ouais, c'est
ah,
cool.
Il a
en fait
du montage.
Mais ça, ouais. Mais ça faisait un beau témoignage au final de juste avant sa mort. Au final, c'est cool. Enfin bref, Hart, je pars. Voilà, c'est cool. Je vais passer dans plusieurs patelins comme Bagdad, Kaboul, Palmyre.
Les patelins Bagdad, quoi.
Oui, ouais,
c'est une patelin, drôle de définition des patelins.
Oui, j'ai réduit ça à mon échelle. Srinangan, la vallée de Banyan et Herat. Et d'autres, évidemment, il y a plein. Ce qui est intéressant aussi, parce que justement, ils vont passer dans toutes ces villes. En fait, ils vont voir plein de cultures différentes. Ils vont s'intégrer à eux, ils vont se mélanger, ils vont partager des cultures, ils vont partager des choses, des connaissances, et ils vont les ramener, évidemment, en France.
Oui, bah c'est, ouais, ça fait partie de l'intérêt de l'expédition.
Je dirais que c'est... Oui, c'est, enfin, je sais pas si ça en faisait partie, mais en tout cas, ça, les personnes qu'ils ont appelées à faire cette expédition, eux, ça faisait partie de leur projet, ouais.
Ouais.
Citroën, peut-être pas, mais en tout cas, les autres, oui.
Fallait quand même qu'il y ait un intérêt. Si tu veux, en fait.
Bah,
même
si... qu'ils rajoutent d'autres intérêts pour être subventionnés.
Oui,
ou,
mais voilà. C'est exactement ça pour se faire bien voir. Parce que c'était le double objectif. Tu devais faire de la pub pour Citroën, mais tu devais aussi ramener des choses à la maison pour montrer que t'avais un intérêt à faire ça et qu'on te finance l'expédition suivante. C'est un peu l'idée.
C'est ça. Et tout à l'heure, t'as parlé de son. Un technicien du son. Un jeune d'ailleurs qui s'appelait William Cyrel. Il avait 20 ans. Il a participé à cette expédition, à la plus longue des deux, hein, de la Croisière Jaune.
Il va bien lui?
Il a envie. Enfin, il est peut-être plus envie.
Non,
là,
peut-être plus depuis les années 30, non, je pense pas.
Peut-être plus. Mais en tout cas, lui, il allait bien. Il est rentré chez lui tranquille. Il a même fait une grande carrière. Hein. Il est devenu célèbre grâce à cette croisière jaune. Il a travaillé avec les plus grands. Et là, je vais même faire une petite citation qu'il a dit à la petite fille de Hart, qui elle est en vie, pour le coup. Parce que petite fille.
Oui.
Il lui a dit : j'ai travaillé avec les plus belles actrices, peut-être pas d'Hollywood, hein, mais françaises, Brigitte Bardot, Romy Schneider, chacun ses standards. Hein,
bah, de l'époque, oui.
Oui. et les plus grands acteurs, hein, comme Louis de Funès ou Bourville.
Mmh. Ouais, je croyais que sa déclaration c'était ah bah dites-le, ah bah dites-le.
Non, c'était pas ça. Mais la plus belle aventure que j'ai connue restera la croisière jaune.
Oh, c'est mignon.
C'est beau pour ouais. un technicien.
Mais en même temps, attends, parce que déjà aujourd'hui tu vis ça, à mon avis, c'est une aventure extraordinaire. Mais
tu le vis pas, tu
si
meurs.
Tu le re... Oui, enfin, si... non, tu, non, tu meurs, mais à l'époque ça devait être encore plus extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un truc unique, tu étais seul à le vivre.
Oui, c'est vrai.
C'est la première fois que t'as des Européens qui passaient là, quoi.
Oh, ouais, non, mais clairement, oui. Il y avait déjà eu des Européens qui étaient venus hein, en Chine et tout ça, mais c'est vrai qu'une expédition, surtout avec les véhicules, hein, comme tu l'as dit, c'est peu commun. Ils n'ont pas été la bienvenue partout, notamment par exemple en Afghanistan. Alors en fait, si, ils ont une spécialité assez légendaire. Alors à l'époque,
ouais.
ils ont été accueillis quand même avec une garde à cheval et armée de mitraillettes.
Ouais, est-ce qu'on fait
de l'époque
pas... Ouais, mais enfin, en
est-ce
même temps,
que c'est pas
normal,
normal. Peut-être.
Bah, si, c'est normal dans le sens où, ah, halte là, étranger, même s'ils avaient préparé le terrain, tu vois, mais tu peux
et
te retrouver face
bah
à
oui,
des
ils
hostilités.
Ils ont été accueillis comme ça, donc bon, après, ça a été, hein, franchement, c'était ouais. cool. Ils ont vu aussi dans une autre culture, je sais plus où c'est, dans quel pays, ils les ont invités à regarder un sport de chez eux, très sympathique, un genre de polo, mais où les perdants meurent, entre guillemets.
Quoi?
Ouais,
ah, donc, une tradition locale.
Non mais c'est exactement ça, une tradition locale.
Bah oui, bah.
Donc oui, non. Enfin,
non, ils ont pas
cool.
participé.
Non, non, non. Non
bizarrement. Non. Parce que si ça se trouve, ils seraient peut-être pas rentrés autant qu'ils sont rentrés. Quoi.
Oui, voilà. Ils ont failli pas rentrer aussi. En Chine, ils se sont fait arrêter par un maréchal, le maréchal King,
qui était pas au courant de l'expédition.
Peut-être, peut-être pas. Aucune idée. Lui, il s'en fout. De toute façon, il a fait des trucs pas très cool apparemment, ce maréchal, pour les Ouïghours notamment. Donc,
pour
si les Ouïghours, si tu
ah,
suis l'actualité, tu vas en entendre parler. On ouais. entend souvent parler des ouais. Ouïghours en ce moment. Ils ont la vie dure. Mm. Faut soutenir les Ouïghours. Et bien, le maréchal King, il les soutenait pas, apparemment, visiblement. Et donc, oui, il a décidé de mettre tout ce beau monde en prison.
Bah, bon, oui.
Dans la prison d'Urumqi.
Okay.
C'est une ville en Chine.
Comment ils sont sortis de cette prison?
Grâce à un gars, devinez lequel. Qui dans...
Le peintre.
Le peintre.
Pourquoi? C'est pas son rôle.
Eh ben, le peintre, alors, comment dire, c'est peut-être le réduire de dire qu'il était peintre, mais il était bien plus que ça, en fait. C'était un artiste.
Oui, bah, jusque-là, peintre, oui.
C'est un... Oui. Mais c'est un artiste dans plein de sens du terme, en fait. Il aime la danse, il aime la musique, il aime la peinture.
Et il aime la diplomatie.
Et oui, du coup, en fait, il s'est servi de cet amour de la culture des autres, cet amour de la découverte, pour pouvoir discuter et dire, bah si, notre passeport, il est valable, monsieur. Quand même, bah, okay. Voilà.
Donc si on part en expédition, chez nous, à une des
prenez stars, un peintre.
Bah, on invitera Thierry. Je oui. pense qu'il pourra bien faire le.
Je sais pas s'il sait peindre, mais il, oui, diplomatie. Désolé,
c'est un artiste. Ah non, mais c'est vrai.
Mais oui. Donc, oui, effectivement, emmenez un peintre avec vous, surtout que les peintres. Enfin, lui en tout cas, il était vachement intéressé par tout ce qu'il voyait. Il a même croisé une statue de Bouddha, enfin, croisé. Lors d'expédition, évidemment, hein, c'est pas par. Oh, une statue de Bouddha de 53 mètres de haut. Il est monté dessus. Et il a aidé des archéologues, comment dire, locales,
hey.
À reproduire les fresques qu'il y avait sur la tête du Bouddha. La tête du Bouddha qui a 53 mètres de hauteur.
Ouais.
Donc du coup, tu montes en haut sur la tête et tu descends un peu en rappel. En rappel, et il est descendu, je ne sais pas pourquoi.
Attends, tout ça pour...
reproduire les fresques.
Et le mec qui était à 53 mètres de hauteur, la tête en bas.
Et la tête en bas, pourquoi, je ne sais pas.
Pour reproduire la tête de Bouddha.
Bah ouais. Non, la fresque.
La fresque, pardon. Ouais.
Oui.
Faut en vouloir quand même. Hein.
Ouais,
le mec était investi. Hein.
Non, mais c'est clair, lui, il a donné de sa personne. D'ailleurs, sans lui, la plupart des, comment dire, des petites anecdotes du vécu de ce voyage ne seraient pas retranscrits dans le film.
Il aurait pu avoir un carnet de bord quand même. J'imagine qu'il y en a eu un.
Il y a eu sans doute. Non, mais il y a eu plein de choses de ouais. ramener. Mais c'est pas aussi parlant que les images qu'il a peintes. C'est pas aussi parlant. Parce que lui, il avait vraiment un côté artistique, tout simplement. Côté culturel, vivant. C'était pas le seul d'ailleurs à avoir un petit côté vivant, du moins pendant l'expédition. Il y avait aussi Victor Point, surnommé l'Archange, qui faisait partie de l'équipe de tournage.
Oui.
Il était très vivant lors de cette expédition.
Attends, ça me fait peur quand tu dis qu'il était très vivant lors de cette expédition. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive après?
Et 6 mois plus tard, il était mort.
Point. Final, oui. Du coup.
Il s'est suicidé.
Aïe, pourquoi?
par amour pour sa bien-aimée, enfin oui, sa bien-aimée si on peut dire ça. En fait, il a rencontré une princesse lors d'un passage dans un pays. Princesse, ils se sont entichés tous les deux en plus. Hein. La princesse était réciproque. Putain.
Oui.
Ça faisait chier. Enfin que.
Eh ben, tu demandes ton.
Bah tire
ton WhatsApp, un truc.
Ouais, je sais pas. Tu la tweets ou je. Non, peu importe. Je sais pas pourquoi il. Il est retourné en France et il s'est suicidé.
Attends, je comprends bien l'histoire parce que le mec est retourné en France.
Ouais.
Pourquoi il est pas resté là-bas déjà d'une et pourquoi plutôt que de se suicider, pourquoi il est pas reparti là-bas? Parce que si c'était réciproque.
Peut-être que tout seul c'était peut-être pas aussi facile que ça de le faire.
Ah, okay.
Après, faut savoir quand même à l'époque la seule ligne pour aller en Chine, seule voie navigable, c'était Marseille-Shanghai.
D'accord. Non mais
peut-être qu'il avait pas les moyens.
Je suis d'accord avec toi, mais entre te dire. Je donne tout ce que j'ai quitté à en mourir hein, sur le trajet.
Pour pas aller épouser une princesse.
Pour aller l'épouser ou
une
plutôt
princesse.
Dire, je reste là. Allez hop, une petite balle dans la tête est terminée. Je sais pas, fais quelque chose là.
Oui, c'est vrai. En parlant de faire quelque chose, ils ont eu aussi des petites difficultés à passer dans certains endroits. Alors, mis à part le fait d'être en prison, bon, le désert aussi. C'était l'étape la plus dure, hein, clairement. Moins 30, c'est pas cool. Ils avaient l'Himalaya aussi.
Oui.
Il faisait peut-être pas très chaud non plus, mais
non,
bon, ça a été.
À mon avis, non.
Ça a été en vrai.
Ah ouais
tranquille. voilà. Ça a été dans le sens où il faisait pas très froid. Par contre, le passage était très très inaccessible pour les véhicules. Ils ont dû y aller en file indienne. Ils ont dû faire embaucher 140 porteurs.
Porteurs pour faire
Bah, des porteurs, c'est des gens qui portent des choses.
Oui, mais ils portent quoi là?
Bah, les véhicules démontés.
Ah, ils ont démonté les voitures pour passer.
Et un par un en file indienne.
Aïe, 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 aïe.
C'est chaud, c'est pas évident, c'est tout ce qu'on veut, hein, de toute façon. Ils se sont bien amusés, en tout cas. Ça, c'est tout ce qu'on pourra retenir de la croisière. Ils ont eu un excellent ressentiment. Ils sont revenus, pas tous. Il y en a qui est mort entre-temps.
Pas le monsieur plus l'autre qui s'est suicidé.
Mais
du coup,
contre,
ça fait deux pertes.
Il y a quand même un joli message d'André Citroën qui disait « Ramenez quand même votre camarade...
» Mort.
Voilà, ouais, c'est ça, mort, ramenez-le, il mérite un enterrement, enfin tout ce genre de blabla très gentil.
Ouais,
c'est cool.
Qui fait partie de la commose.
Évidemment.
Mais oui, non mais t'as raison, c'est-à-dire que globalement, ça a été une réussite cette expédition, au même titre que.
Une réussite humaine, une réussite commerciale.
Il y a eu un autre couac quand même là-dedans, alors personne n'est mort hein, pour le coup, heureusement, mais.
Pas cette fois.
Le film qui est sorti, donc c'était un des premiers films sonores au monde. Et la réalisation elle a été confiée à un gars qui s'appelait André Sauvage. Sauf que quand notre André Citroën a vu l'avant-première du film,
c'est dit, ah c'est dégueulasse.
Ouais, en fait il est devenu tout rouge. Et c'est pas que c'est dégueulasse, c'est qu'il a dit qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois. On voit presque pas mes auto-chenilles dans la façon dont ça avait été monté. Et il y a presque aucune auto-promotion pour la France là-dedans. Donc il était pas content du tout. Il a racheté le film à la société de production qui était censée le réaliser. Il a dû le détruire parce que personne n'en a plus entendu jamais parler. Hein. Et d'ailleurs, André Sauvage non plus. Et il a confié la réalisation de la nouvelle version à un certain Léon Poirier qui était le même que pour La Croisière Noire. Donc comme ça, ça a donné une version bien comme il
plus
faut.
Citroën.
Plus Citroën.
Donc il avait vraiment la grosse tête en fait.
C'est pas la grosse tête, mais disons.
Il pensait à une idée commerciale et voilà, il s'en foutait du côté humain et tout ça. Donc.
En fait, je comprends l'idée. C'est-à-dire que le mec, il a investi quand même des millions de francs à l'époque, tu vois, pour une. C'est normal que tu aies tes chevrons là en grand.
Oui, mais il a l'air de là à racheter le film pour.
Ouais, mais il était pas content du montage. Mais donc il a racheté, il a fait remonter par quelqu'un d'autre et là il avait une version qui correspondait et le public a priori bien aimé, même si encore une fois ça reste une œuvre cinématographique, donc tout n'est pas forcément fidèle à la réalité des choses, on enjolive les choses, etc. Faut qu'on fasse vivre une aventure aux gens.
Surtout,
Mais bon, ça a fonctionné comme ça. Et puis enfin pour terminer donc ce quator d'aventure, parce qu'on a dit qu'il y en avait 4, il y a eu la croisière blanche en 1934, donc soit un an seulement avant la mort d'André Citroën. Cette fois-ci elle a lieu en Amérique. À l'initiative d'un certain Charles Bedeau, qui est un homme d'affaires français mais qui vit en Amérique, et qui se dit que tu vois, il prend l'idée de Citroën et il se dit ah tiens, ça va me faire grimper ma cote de popularité si cette mission réussit. Sauf que perdu, ça a été un peu un fiasco, la croisière blanche. En fait, ils vont faire 17 000 km
Pourtant, je veux pas
1700,
dire, mais
pardon.
C'était oui. pas genre un peu plus simple en Amérique du fait que et... c'est un peu plus exploré.
Et bah non. Non, ah non, 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 parce que tu sais, l'Amérique est vachement grand et à l'époque, il y avait plein de territoires inexplorés. Là, c'est que 1700 ouais. km, mais c'est dans les montagnes rocheuses où seuls les Amérindiens et les chercheurs d'or sont déjà aventurés là-bas. Ouais. Mais ils ont pas eu de chance parce qu'ils ont eu des pluies, genre des pluies diluviennes, des glissements de terrain, des coulées de boue, des tempêtes de neige. Ils avaient beau.
Tout ça en 1700 km ?
Ouais, 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 ils ont eu tout.
Ils ont la totale quoi.
Ouais, la totale.
C'est peu.
Et pourtant, ils ont remplacé les roues avant par des skis pour que ça puisse passer un peu partout. Mais ça n'a pas suffi. En fait, ils ont vraiment pas eu de chance dans le sens où ils ont perdu deux voitures qui ont coulé dans la rivière. Ils ont perdu une autre voiture qui était sur un radeau pour aller d'un côté à l'autre. Et le radeau, c'est les gars, ils ont perdu la voiture. Les deux autres ont dû être abandonnés parce qu'elles sont embourbées, impossible de les récupérer. Donc ils ont continué à cheval. Ils n'avaient plus de voiture, ils ont continué à cheval. Sauf que tempête de neige, les chevaux sont tombés malades. Du coup, ils ont été obligés de faire demi-tour.
Ils ont bouffé, c'est ça qu'ils veulent dire.
Peut-être qu'ils ont bouffé les chevaux, je sais pas. Mais en tout cas, pas une franche réussite. Mais ça a quand même bien fait de la pub. Hein, et ça a rapporté des nouvelles données. Donc voilà. Si on les combine avec les trois autres, le bilan de ces expéditions, ils sont plutôt bons. Mis à part le fait, on pourra toujours reprocher que ça fait un peu colonialiste hein, dans la façon dont c'était présenté, etc.
C'est vrai, c'est vraiment bien vous voir.
Bah oui, et puis bon, la marque Citroën, elle a bien profité de la notoriété, etc. Mais je veux dire, l'objectif principal, il est validé. Toutes les découvertes, analyses qui ont été faites avec ça a servi. On n'a pas découvert l'Amérique non plus, mais si tu veux, on est passé. Et on a immortalisé des photos, des vidéos dans des régions que nous, Européens, on n'avait jamais explorées. Donc, et on a affiné en fait nos connaissances là-dessus. Donc, c'est c'était vrai. Pas une mauvaise idée. Et puis, quand même, parce que c'était aussi l'objectif, au-delà de simplement de dire ouais, Citroën, c'est ma marque, etc. C'était aussi prouver que l'automobile.
Citroën, c'est des ambitieux.
Mais même plus, l'automobile, en règle générale, était le moyen de transport ultime. C'est-à-dire que.
Ouais, tu passes pas en montagne quoi, mais.
Bah, non, mais. Tu, passes dire, pas en tu peux tout faire avec une voiture, tu oui, vois. Tu vrai. Peux la démonter, tu peux la remonter, machin. Mais tu peux passer partout. Là où tu te dis un cheval peut passer là, mais pas ailleurs. Là où un dromadaire peut passer là, mais pas ailleurs. Une voiture, une Citroën avec des chenilles, ça peut passer partout. Et c'est ça qui a voulu, dans un premier lieu, faire Citroën, montrer Citroën. Ils
alors,
ont réussi.
Ne le faites plus chez vous maintenant parce que ça passera beaucoup moins. Démontez votre Citroën pour la remonter après.
Alors, il se peut que le petit module électronique. Ne ça refonctionne plus par la suite. Mais bon, voilà, l'idée globalement est réussie et les aventures de ces épopées Citroën ont été gravées dans les mémoires et ont eu une trace, notamment avec ces deux grands films qui sont sortis, que vous pouvez peut-être retrouver. Alors, ça peut être diffusé dans certains cinémas, sinon peut-être dans les archives, vous pouvez retrouver ça, les croisières noires et la croisière jaune de chez Citroën.
Starter, le garage.
Ce soir, dans le garage de Starter, évidemment...
Une berline
BM ah. oui, c'est une berline. Ouais. Oui. Hors antenne, tu me disais, ouais, c'est une voiture de gangster, tout ça. Alors,
ah bon
oui, c'est une voiture de gangster.
J'ai dit ça, moi ?
Oui, t'as dit ça.
Ah ouais.
Ouais. Mais cela dit, c'est une voiture, une berline tricorps comme tu les aimes, t'as dit.
Oui, c'est vrai. Et c'est puissant.
Et c'est puissant, voilà.
Même sans la version
donc
sport...
Donc toi, t'aimerais bien.
Bah en vrai, plus j'ai cherché d'infos sur cette voiture et plus je me dis, mais attends, c'est typiquement le genre de bagnole que je recherche. Mmh.
Donc de là à dire que tu feras un parfait gangster, il n'y a qu'un pas.
C'est vrai.
Mais bon, parlons plutôt de cette voiture qui se place donc dans la gamme BMW,
série
entre
5.
La série 3 et la série 7, qui sont toutes deux aussi des berlines au look tricorps. Je vais reparler des noms, après tu vas comprendre. On a la 7ème génération déjà de la série 5, donc voilà, il y en a eu pas mal.
J'aime bien les chiffres, mais là ça commence à faire beaucoup.
Tu vas voir, il y a une logique. La première, elle a été présentée en 1972, une période où BMW prend de l'ampleur en Allemagne. Ils ont un nouveau siège social qui s'installe dans la ville de Munich. Voilà, donc ils grossissent et cette berline moyenne prend la place des 1500, 1800 et 2000 de la gamme avec un look plutôt sportif, ça c'est bien dans l'esprit de BMW, ou en tout cas dynamique, hein. Elle est confortable voire luxueuse sur les versions haut de gamme et elle est taillée pour faire beaucoup de route, ça faisait partie du cahier des charges. Elle sort au moment, en fait en 72, où les Jeux Olympiques de Munich justement ont lieu. Donc bonne petite vitrine à la sortie de la première version qui est la 520. Alors je vous fais le petit aparté sur la stratégie des noms de BMW pour que bien que vous compreniez. C'est toujours la même en fait hein. Actuellement ils ont toujours cette même stratégie. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le nom de code de la génération du modèle. Donc nous la première génération, c'était la E12. Voilà. Donc E12, ça désigne tous les modèles de série 5 du moment, qui s'appelait pas encore série 5 d'ailleurs. Ensuite, il y a
pourquoi E12 ?
Parce que, alors ça je sais pas, ça tu me poses la question, il y a un nom comme ça, le code c'est E12.
D'accord.
Ensuite il y a le positionnement du modèle dans la gamme. Donc la 5 va être plus grande et plus luxueuse que la 3, mais moins que la 7. Et pourquoi un chiffre impair ? Parce que tous les chiffres impairs désignent des berlines. Tout ce qui est coupé et haute seront des chiffres pairs. Si on prend une série 4, c'est un coupé, alors que la série 5, c'est une berline. Et les deux autres chiffres que tu accoles au 5, ça indique la cylindrée du moteur. Par exemple, la 520, en fait, 20, ça veut dire une 2 litres. Et si c'est 530, c'est une 3 litres.
540, c'est une 4 litres.
Une 4 litres, voilà, t'as compris le principe.
Est-ce que ouais. Ça marche pareil pour les sports du type série 5 ME60?
Oui, exactement.
Bah
oui,
ça, ça... E, c'est essence ou non?
E, c'est... Alors, je sais pas parce que... E, c'est... Les mettre après.
Non, parce qu'après, oui, c'est E et après c'est F en plus.
Oui, alors
donc
non.
Ça doit pas être essence.
C'est, mais... pas, c'est pas essence. Bah, m'embrouille pas. Je continue. Je continue.
Mais oui, comment ça s'envoyait
mais, oui, bah oui, parce qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué. Mais il y a quand même une stratégie.
Mais c'est pas simple.
Même si tout, au final, on l'appelle juste la 5, hein, tu vois. Ouais. On se complique pas la vie. Parce qu'en plus, ils ont rajouté, oui, je dis à la fin des noms. Par exemple, il y avait le I, c'était pour les versions injection. Et on se souvient par exemple de la M535i en 79 qui a été conçue par le département sport de chez BMW, Motorsport, tu vas en reparler avec le M.
Oui.
Mais c'est l'ancêtre de la M5 justement.
Mais bien
tu
sûr,
vois, la
je m'en rappelle.
M535i.
Je l'ai en mémoire.
Bien sûr, évidemment. C'est la voiture, tu sais que la 535i c'était la voiture préférée de Jacques Mérine, l'ennemi public.
C'est qui Jacques Mérine?
Oh non,
si, ah, c'est Jacques Mérine.
Ah oui, mais on dit Mérine.
Non, on dit Mérine.
Non, on dit Mérine.
Non, on dit Mérine.
Mérine.
Ah, il y a débat.
Regarde le reportage, il dit toujours Mérine.
Je suis sûr qu'on dit Mérine.
J'ai jamais entendu parler de Mérine, mais j'ai entendu parler de Mérine.
Et ben, moi je dis Mérine parce que je suis sûr qu'on dit Mérine. Mais c'est pas grave, il y a débat là-dessus. Mais Mérine ou Mérine, c'est la même chose, c'est la même personne.
N'hésitez pas à taguer
si vous voulez. C'est l'ennemi public numéro 1 des années 70. Il a fait plein de cambriolages et d'enlèvements en M535i. Est-ce que ça fait pas rêver tout ça?
C'est vrai, Jacques Mesrine, je rêve.
Et enfin, même si, à contrario, parce que là on parle de méchants, mais oui. Dans le camp des gentils, il y avait l'inspecteur Derrick qui avait une série 5 aussi. Donc voilà, ça contrebalance un petit peu.
Et il fallait Twingo pourtant.
Il n'avait pas de Twingo, l'inspecteur Derrick. Deuxième génération donc de série 5 qui apparaît en 81, c'est la E28, donc ça c'est le nom de code évidemment, qui est un petit peu plus grande. Visuellement, bon, ça change pas grand chose, mais un peu comme tous les modèles allemands, hein, c'est-à-dire que ça évolue en douceur, mais ça évolue dans le bon sens, enfin en tous les cas dans l'air du temps.
C'est plutôt les moteurs qui évoluent plutôt.
Et la E28 existe aussi en sport.
Et elle existe aussi en sport évidemment. Et ça va être d'ailleurs la première,
première.
Vraie M5
sortie en 84 là.
Exactement. Il y a une autre innovation sur cette berline qui concerne le diesel. En fait, c'est à dire qu'en 83 il y a Monsieur Piquet qui remporte le championnat du monde de Formule 1 en BMW avec pour la première fois sur une F1 un moteur turbo compressé. Et c'est une technologie qui va être retranscrite en série sur la version diesel de la série 5 qui va commencer à donner de l'intérêt à ces moteurs, parce que c'est vrai que jusque là des moteurs diesel c'était solide mais c'était des veaux, c'était vraiment des tracteurs, tu vois les trucs. Et là pour la première fois on a un diesel qui se défend. Alors ça fait que 115 chevaux, ça peut paraître pas terrible aujourd'hui, 0 à 100 en 13 secondes. Mais à l'époque, ouais, c'était une fusée, quoi, le pour un moteur diesel. Donc voilà, ça c'est ce qui marque la deuxième génération. Concernant la troisième qui sort en 92, il y a une volonté de faire croire qu'elle est plus une série 7 qu'une série 5, tu vois, on monte en gamme un petit peu, elle est plus fiable aussi, et elle est plus sécurisante, notamment en termes de teneur d'eau, parce que je rappelle que toutes ces BMW, ce sont des propulsions, donc c'est-à-dire que la traction des roues se fait à l'arrière, voilà. Et c'est-à-dire que c'est des voitures qui sont très joueuses, mais du coup sous la pluie quand tu ne la maîtrises pas, ça peut très vite partir en tête à queue.
Et puis même quand tu maîtrises, de toute façon, il y a de grandes chances que ça glisse quand même.
Oui, c'est mais quand tu sais maîtriser le glissement,
tu anticipes plus.
Tu sais faire un burn dans ton rond-point, tu
c'est
vois.
Vrai,
alors que là, bon, évidemment, là, ça... ouais. Sinon c'est faussé. Hein. Le diesel s'améliore encore et une version break est apparue pour la première fois, la version touring.
Ah, le E61.
Oui, parce que c'était E60, était E61 en, ouais, en version touring, donc en version break. On arrive en 95 avec la E39, qui est la quatrième génération de la série 5, que je trouve personnellement être la version la plus belle et la plus aboutie de la série. Je suis pas le seul à le penser. Hein. Elle est super confortable, elle est ultra bien finie, c'est vraiment un must. Et après le restylage qui intervient au début des années 2000, ils lui ont mis des phares avant en anneaux, tu sais, comme tu peux retrouver maintenant avec de la LED autour, ce qui lui donne une vraie signature lumineuse. C'est la première fois qu'un constructeur mettait en avant comme ça une signature lumineuse et qu'on pouvait reconnaître la BM dans la nuit. Donc, petite avancée technologique quand même. On arrive en 2003, et là c'est le drame. Non, il y a une nouvelle génération, donc la cinquième génération, qui est dessinée par un certain Chris Bungle, qui va révolutionner le design. Et j'avoue qu'on a été nombreux à être déçus, parce qu'en même temps, c'est un côté très moderne, et d'ailleurs, on retrouve des codes stylistiques qu'on emploie encore maintenant, mais en même temps, je trouve que ça perdait vachement de l'identité de BMW, et je trouve aussi tout le charisme de la voiture, toute la prestance qu'avait la BMW série 5, on la retrouvait pas dans ce nouveau modèle. Donc voilà, grand changement, et on peut pas dire qu'on a été rassuré à l'intérieur, parce que... l'ancienne était très très bien finie, la nouvelle beaucoup moins, et beaucoup moins bien agencée non plus. Tu sais, c'est le début, t'as déjà
économie
dû voir ça.
Dure de le projet.
Enfin. Alors peut-être un peu économie, et ça a été fait peut-être un petit peu à la va-vite, mais il y avait surtout, tu te rappelles de l'e-drive, une espèce de petite molette que t'avais au milieu de la console centrale, parce que t'avais pas des écrans tactiles,
c'est
encore.
C'est pour le mode économie.
Non, c'était pas pour ça. Ouais. C'était pour commander en fait l'écran, donc toutes les fonctionnalités, le GPS, la clim, etc. Tu le commandais grâce à une petite molette au milieu de ton truc. C'était hyper compliqué. C'est-à-dire que pour le GPS, par exemple, tu rentrais l'adresse lettre par lettre en tournant ta petite molette, tu sais, pour aller de A, B, C, D, etc.
Tu tournes et t'appuies.
Ouais, donc t'étais vers la gauche pour entrer le F 10 fois, vers la droite pour entrer le E 20 fois, à la gauche pour entrer le C.
Et tu t'es trompé, donc tu recommences ton adresse.
Là, t'as accompagné. Chérie, on peut prendre la carte? Non, attends, je finis 14 fois à gauche pour prendre le O.
Ah, bon, on est arrivé.
Ah, un SMS de nos amis. Ah, ils ont déjà fini de dîner, bah oui, trop tard. Non, tu vois, c'était un petit peu l'idée. Bon, il y a quand même des améliorations qui ont été faites, notamment les BMW Efficiency Dynamics, un terme un petit peu pompeux, pour désigner toutes les bienfaits écologiques que vous voulez mettre en avant la voiture. C'est-à-dire que tu avais un start and stop, vous savez, quand vous arrêtez un feu rouge, ça coupe le moteur et puis hop, ça redémarre quand vous redémarrez. Il y avait une récupération d'énergie au freinage pour recharger plus vite la batterie en plus de l'alternateur. T'avais l'indication pour le conducteur de passer au bon moment ta vitesse, c'est un petit indicateur, ah maintenant tu peux passer ta vitesse, c'est cool. Il y avait des volets d'air aussi dans la calandre qui permettaient de s'ouvrir ou de se fermer en fonction du besoin de refroidissement et qui donc permettaient un meilleur aérodynamisme quand ils étaient fermés. Tout ça donc dans un but soi-disant bon, un peu économique et surtout écologique pour le conducteur qui venait de dépenser quand même 50 000 balles dans sa BM, mais c'est l'idée. Ensuite il y a eu la 6G, la 6ème génération, nom de code F10, ne me demandez pas pourquoi, qui a remplacé donc l'ancienne génération en 2010. Moins osée, plus rassurante, aussi mieux finie. Enfin, ils ont fait ils ont remédié un petit peu au tard de l'ancienne. Ils ont tenté sur celle-là une version hybride, mais c'était franchement pas terrible. Donc du coup personne n'a acheté cette version. Ah, c'était pas encore au point.
Un futur mode. Ah non, non.
Et enfin, on est aujourd'hui à la 7ème génération de la série 5, la G30, qui est apparue en 2016. Avec un style vachement plus agressif, plus dans l'esprit des séries 5 du passé, on va dire, avec encore plus de technologies embarquées, mais en même temps un petit gain de poids. Alors c'est pas spécifique à BMW, hein, tous les constructeurs ont fait un peu la même chose parce que ça coïncide avec l'allègement des matériaux globalement, etc. Mais c'est à signaler. Et on a enfin retrouvé la vraie qualité made in BMW pour faire jeu égal avec Mercedes ou Audi.
Porsche.
Et Porsche, ouais, mais Porsche n'est pas exactement le même credo. Là, on parle plus de berline confort et luxe. Plus
ils ont une berline sportive qui a concurrencé Porsche.
Oui, la M5.
La M5,
oui. Oui. Non, mais tout à fait, la M5. Alors,
et
qu'est-ce que la M5?
La E39. Eh ben, c'est simple, BMW, tu vois, toutes les voitures que tu as parlé, ils ont une autre dénomination. Si tu mets la E38 avec M5, pouf, ça fait la BMW sportive.
Oui.
On va dire plus grosso modo. C'est une logique qui se tient. Enfin, voilà. Donc tu as la BMW M5 E34, E39, E60 et E61.
Donc à partir de la deuxième génération de la série 5, en fait, est apparue la version M5,
c'est ça,
qui était la dénomination sportive Motorsport.
De celle de série, alors peut-être pas toutes, effectivement. Par exemple, j'ai pas de M5 en de la G, je sais plus combien.
La G1.
Voilà, bah là j'ai un. Bah y a pas de M. Voilà.
Non.
Par contre, ça s'arrête jusqu'au F90.
Ouais.
Qui est sorti en 2017.
Ok, donc la dernière génération quoi.
Ouais. Un peu pourrie d'ailleurs. Elle est toujours d'actualité.
Oui, bah voyez. Parce que les normes anti-pollution et compagnie sont passées par là. Je crois qu'à un moment donné, il y a des turbopropulseurs. Enfin, compresseurs, pardon, pas turbopropulseurs. Mais oui, qui sont passés par là et ils ont dû réduire la cylindrée du moteur. Et bon, ça fait que l'esprit sportif de la voiture...
Ouais, mais ça, ils l'ont réduit déjà d'avant, en plus, donc ouais. c'est bof.
C'est un peu perdu de sa superbe. Ah bon. Mais bon, ça reste quand même des voitures mythiques, notamment
oui.
les premières.
Revenons-en au ouais. début de début. Alors, la fameuse série 5 M... Non, pas M5.
M5, oui.
Si, M5. Série 5, M5. Oh, c'est dur.
Non, une M5.
M5 E28. Mm. On dirait vraiment qu'on joue à la bataille navale, hein, clairement. donc, une berline. C'est la première sportive de la série. Ils se sont dit, on va prendre notre berline. On va mettre un moteur sport et un moteur sport 6 cylindres en ligne, tout voilà, en ligne.
Un petit V6, oui.
Oui, un petit V6 en ligne, le même que le coupé M1.
Oui, qui est BMW, oui.
Oui, qui est chez BMW. Hein. Ils ont fusionné, tu vois, et pouf, ça a donné la E28. Donc, bonne sportive, hein, clairement.
Ah bah, c'était clairement, à l'époque, hein, il me semble, la berline familiale la plus rapide d'Europe, quoi, du monde, peut-être.
Celle-là, je sais pas.
Peut-être pas celle-là, mais la deuxième ou troisième génération après.
Celle d'après, ouais, la E39, tu voulais sans doute parler.
Ouais.
Elle, effectivement, oh, ça, ils sont passés à un V8 déjà.
Mm-hmm.
4,9 de cylindrée.
Oui.
C'est pas mal, hein. Oh, bah oui. Une puissance de 400 chevaux, c'est pas mal
c'est
non
pas
plus.
Pas mal non plus.
Voilà, c'est effectivement la BMW la plus puissante de l'histoire.
Ouais, ouais.
Elle faisait jeu égal avec la Porsche 911.
Ah oui. Ah oui, carrément, ouais.
Ouais,
ouais donc là, pour le coup, effectivement, la comparaison avec Porsche est valable. Oui. Mais non, mais quand je te disais, la première, c'était pas forcément la BM la plus puissante au monde, mais c'était la familiale. Des familiales où c'était la.
Ce genre puissante. De BM, c'était sleeper en puissance. Parce que c'est vrai que t'as pas vraiment. Quand tu regardes la BM, c'est pas vraiment un look sport.
Hein.
Ouais, c'est pas du tout sport affiné, tout ça. C'est même plutôt mastoc en vrai pour des berlines. Enfin, je trouve. Hein.
Quoi
c'est assez cubique, c'est. Oui. Enfin, c'est joli, mais. C'est vrai que
tu t'attends pas à avoir 300-400 choses sous le capot.
C'est
plutôt homme d'affaires, quoi.
Oui, c'est ça. Homme d'affaires pressé.
Oui. C'est vrai, ouais, très vrai.
C'est l'esprit BMW, hein. C'est de se dire, voilà, on garde le luxe, on garde le confort.
On veut le sport, mais on veut le classe. Sport. Pas Jackie Tuning, ouais, pas ça. Ferrari, pas. T'as pas l'œil.
Ouais. Donc,
voilà. Après, petit déclin. Enfin, petit. Ils sont partis sur un autre délire. Ils se sont dit, on va faire la E60. Pourquoi pas. Et la E61.
Break. Alors 61 c'est la break ouais.
Ouais. Pourquoi ils ont fait une break sportive? Je ne sais pas.
Pour pouvoir partir en vacances en famille
à la chasse
à 300 km/h.
Oui. Bah je sais pas pourquoi.
Quand toujours l'homme d'affaires pressé qui a eu des enfants tu vois il part en vacances avec un break.
Je crois. Ils ont monté de gamme hein, là-dedans ils sont passés à un V10.
Ouais. Alors t'as eu le V6, le V8, le V10.
Donc ça monte bien pour le moment.
Ouais.
Tu passes de 400 chevaux à 507.
Ouais.
C'est pas mal non plus ça envoie du lourd. C'est là aussi qu'ils ont commencé à mettre des boîtes 7 vitesses à commande séquentielle robotisée.
Ouais.
Alors, Père Théo, explique-nous ce que c'est qu'une commande séquentielle à robotiser, parce que je trouvais ça intéressant, mais je sais pas ce que c'est.
Oui, bah alors, en fait, tu avais, avant ce que aiment tous les sportifs et encore en ce moment, même si ça devient de plus en plus rare, c'est la boîte classique, hein, la boîte manuelle que tu as avec tes rapports. Et boîte séquentielle, tu as de plus en plus ça. C'est le fait, alors, soit d'avoir les palettes au volant,
ouais.
Tac, à droite vitesse plus, à gauche vitesse moins. C'est pas automatique, c'est séquentiel. C'est-à-dire que c'est toi qui passes ta vitesse au moment où tu le veux, mais t'as pas de pédale d'embrayage et tu passes comme ça à la volée.
Ah.
Et
tu peux conduire sans les jambes.
Et tu peux conduire sans les jambes.
Non, pardon,
oui,
faut l'accélérateur.
Voilà. Il faut l'accélérateur et le frein quand même. Tu peux avoir du double embrayage aussi. Mais tu as la possibilité aussi d'avoir la même chose sur une boîte de vitesse qui ressemble à un levier classique, sauf que tu vas avoir. Alors ça dépend des modèles, hein, mais la
ça
plupart
monte,
du temps, quand tu tires vers toi, tu passes un rapport et quand tu pousses, tu rétrogrades. Ça peut être aussi l'inverse selon les modèles, mais si on prend l'exemple des voitures de rallye, c'est ça. Tu tires vers toi, tu passes un rapport supérieur et tu rétrogrades en poussant. Donc voilà, ça a un côté pratique, mais c'est surtout une question technologique qui rentre en jeu dedans. Moi, je trouve que ça perd un peu du charme du vrai sport à l'ancienne, avec la grille comme on adorait sur les Ferrari, la vraie grille. Voilà. Mais bon, c'est une affaire de goût aussi, mais c'est un peu moins pur sport.
En parlant de moins sport, la F10, là ça commence à dégringoler un petit peu hein, quand même. La F10, on est en. J'ai oublié la date, on est en 2012.
Ouais, bah.
2012, oui, effectivement, le V10. Ah bah non, on va redescendre sur un V8, hein, les gars, on a plus le
choix. Qu'on appelle du downsizing.
V8 biturbo.
Ouais.
Hein, donc ça fait 560, hein, c'est plus puissant, mais t'as moins le droit de rouler. Donc,
oui, et puis t'es, en fait, c'est toujours un petit peu le débat là-dessus.
Le fait alors, que tu sois en biturbo, ça réduit un peu
c'est pas
la
pareil.
Sensation.
Ouais, ouais, c'est pas pareil. Alors c'est bien, t'as l'effet turbo, mais une grosse cylindrée, c'est chouette, quoi. Ça fait du beau bruit, etc. Là, tu vois, tu perds un petit peu tout ça.
C'est un peu comme les X5M et les X6M. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais j'avais envie de le dire.
Ah, les X, c'est des SUV, ça. Ah, il y a X5.
Tu dégringoles,
oui,
en vrai.
Mais c'est ça, le X5, c'est le gros SUV de chez BMW. Ouais. Alors, il a existé, oui, en version M. Mais bon, en même temps, tu t'achètes pas, je suis désolé hein, si vous l'avez, mais tu t'achètes pas une sportive
SUV.
Non,
attends,
non.
Un SUV sportif.
Mais ouais, mais il y en a plein actuellement. Mais
non, dans SUV, il y a pas Sport Utility.
Je ne suis pas d'accord. Si, il y a Sport Utility véhicule, mais bon, non.
Et Sport après.
Ouais, ils ont fait le sport jusqu'au bout.
Ah ouais, mais franchement, c'est trop abusé. Hein. Par contre, ce qui est plutôt pas mal à la rigueur, c'est qu'ils ont allégé clairement leur bagnole. Oui. À ce moment-là, ils ont utilisé des matériaux vraiment très très légers, comme la chute de carbone. Ouais, voilà. Ils sont passés à ça, quoi.
Okay.
Après, bah oui, la F90, pas grand-chose à dire. C'est récent.
Ouais.
Vous pouvez l'acheter encore une fois. Ah bah, c'est 2017.
Là. Non mais achetez-la. Mais en même temps, je dis ça, mais c'est vrai que oui.
Peut-être que
profitez-en.
Non.
Bah si. Profitez-en si vous aimez quand même les voitures. Alors avec les technologies modernes qui ont peut-être un petit peu perdu leur super par rapport au vrai moteur à l'ancienne, mais cela dit, c'est certainement la dernière version thermique, pure thermique, de la série M de chez BMW. Comme vu qu'on va passer tous en électrique hein, à un moment donné, ils vont bien y passer aussi. Si vous voulez une voiture donc thermique, une BMW M5 ou même une W série 5, combien ça coûte, Teddy?
Alors, je vais commencer par la série 5 et je vous ai même sélectionné plutôt la E39.
Alors, attends, la E39, donc tu m'as dit
c'est la 3G. C'est celle qui était la plus. Enfin, je trouvais la plus emblématique de la série.
Ouais, donc fin des années 90.
Oui,
hein,
celle
c'est
qui envoie du 400.
Ouais.
Celle qui a bien marqué son époque.
Ok. Mais là, t'es en M5 ou t'es en série 5 version
M5.
Ah, M5, ok.
M5, E39.
Ouais.
T'en trouves vers les 40 000.
Ça va.
Ça va.
Mais alors, bien kilométré, j'imagine.
Bien que. Oui, 100 000 à peu près.
Ah ouais, ok.
Ouais, ouais.
Bon, après, c'est.
Il n'y en a pas beaucoup qui roulent.
Ouais, déjà, il faut la trouver.
Faut la trouver, ouais. Donc,
Et puis, en plus, dites-vous que ça peut vous paraître cher quand même, hein, en termes de budget par rapport à certaines autres voitures, par rapport à la Fiat Panda, par exemple. Mais dites-vous que ce sont des voitures qui ont toujours eu une cote, même en occasion, hein, elles n'ont jamais vraiment baissé ces voitures-là.
Ça décote pas trop, effectivement.
Ça décote pas trop parce que c'est vraiment des classiques. Et je pense que, notamment cette génération-là, toutes les premières hein, jusqu'à cette génération-là, à mon avis, elles ne font que prendre de la cote. C'est-à-dire que vous achetez la même voiture dans 10 ans, elle aura pris 10 000 balles, quoi. Donc c'est un choix qui se défend.
C'est vrai. Et après, pour la BMW série 5, je vous ai sélectionné la toute première parce que vous êtes nostalgique. Vous voulez la toute première?
Ah, bah, elle est belle, la
donc la E29.
La voiture de Meyerine.
De Marine. la voiture de Marine, ok. Vous devez en trouver aux alentours des 20 000.
Ah
c'est
ouais.
C'est pas déconnant non plus.
Non, c'est pas déconnant. Hein. Ouais, plutôt que d'acheter une Clio de base neuve à ce prix-là. Non, mais je fais toujours parallèle. Alors, c'est pas la même chose, évidemment. Et puis, avec la première génération, vous ne pourrez pas circuler dans les villes ZFE. Hein, on est d'accord. Mais cela dit, là, vous avez quand même une berline. Bon. Qui est datée parce qu'elle date des années 70, mais vous avez une berline qui, même aujourd'hui, est quand même hyper confortable, grande, plutôt pratique, etc. Et au standard BMW avec une bonne finition, etc. Donc, et qui a un charme, et vous ne croiserez pas la même. Donc, ouais, pour moi, si vous aimez BMW, je pense que c'est plutôt un bon choix, que ça soit la première, deuxième, troisième génération.
Oui, c'est.
J'ai plus de mal avec la version des années 2000 après.
Oui, non, mais c'est vrai, ils ont eu un changement quand même. Hein. Ça se voit qu'ils ont subi le. Ouais, faut rouler moins vite, tout ça. Budget, tout ça.
Ouais, même technologiquement parlant. Mais c'est vrai que même sur le style, celle de Chris Bangle là, de 2003.
C'est vrai que c'est moins stylé quand même.
Ah, j'ai pas fan.
Non, ça ressemble plus à des coupés dégueulasses de chez Clio. Des Clio coupés.
Des Clio coupés. Starter sur Indestar. Starter sur Indestar, dernière ligne droite. Et ça tombe bien quand on parle de voiture ou de moto.
C'est vrai, oui.
On a des insolites pour vous. Enfin, Antoine a une insolite pour nous.
Oui, parce qu'au départ, je voulais chercher ma brève de ce soir.
Et tu es tombé sur une brève, mais insolite.
Oui, c'est ça.
Bah oui, ouais, ça
tombe bien. Parce que moi, vu que je suis fan de Mustang, j'ai vu qu'il est censé une ancienne Mustang. Ça, c'est la même brève.
Oui.
Mais je l'ai pas trouvé. Voilà, pas j'ai trouvé ça.
Alors, tu es fan de Mustang, on est d'accord, pas les chevaux, hein, les voitures, les voitures, Ford Mustang.
Ah oui, les Mustang, oui, les gros canassons.
C'est une forme de débourrer des gros. Bah, c'est un gros canasson aussi. Hein.
Aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la Mustang?
Bah, imagine, déjà un bon V8.
Oui.
Mais avec des turbocompresseurs en plus.
D'accord, donc ça fait un gros bébé quoi. Hein, donc,
sachant qu'une Bugatti Chiron, il y en a 4.
Oui.
Là, on a 8.
Ouais, mais attention parce que la Bugatti Chiron, c'est un V16, hein, c'est pas un V8. Hein.
Oui, mais là, c'est un V8 avec 8 turbocompresseurs.
D'accord, donc c'est-à-dire que quand les turbos se déclenchent, ça envoie le pâté.
Ah oui, oui, franchement, il y a une vidéo en plus dessus.
D'accord, et tu vois la Ford Mustang. Alors, c'est une version modifiée, c'est pas une version de série.
Non, c'est une version. Oui, c'est une version modifiée. Parce que
ouais, c'est
une
version. Dragster.
Ouais, c'est ça. C'est
une version compétition peut-être, ou ouais, un truc du genre.
Et alors, ça fait quel effet?
Ça fait déjà beaucoup de chevaux déjà.
Ça fait ouais, que je l'ai pas vu.
Combien de chevaux?
De 700 à 1000 chevaux. Parce que, en fait, ils savent pas.
Comment ça, tu sais pas?
Ouais, en fait, ils ont marqué entre 500, entre 700 et 1000.
C'est une grosse fourchette là, Zéa. En fait, ils ont 300 chevaux.
C'est vrai, c'est qu'en fait, sur chaque. Tu sais, sur le banc de GC, à chaque fois qu'ils sont le banc de GC. Ouais. Bah, en fait, ça change à chaque fois. Un coup c'est 1000, ouais, un coup c'est.
Ah, mais il est pas précis leur bande d'essai. Parce qu'entre 700 et 1000 chevaux, il y a quand même une petite différence.
Bon, bien sûr, c'est pas une voiture aux normes.
Ouais,
ouais,
ouais.
Bon, les parkings c'est bien, mais.
Ouais, donc ils ont mis ça en vidéo, tu peux la retrouver quoi sur YouTube?
Oui.
Tu tapes Ford Mustang 1000 chevaux. Mustang. Ou 700.
Mais c'est énorme ou c'est pas énorme pour actuel
Bah, une Bugatti ça fait à peu près 1000.
Une Bugatti.
Parce que je vois bien un Fiat
Chiron
Multipla aller à 1000 chevaux alors.
Attends, oui, mais ça c'est vilebrequin ça. Attends.
Oui, ouais, non, je suis d'accord, mais non, du coup ça doit pas être si énorme
si,
que
si,
ça.
C'est énorme. Attends, c'est à dire que la voiture la plus puissante aujourd'hui c'est la Bugatti Chiron.
Pas l'Aveyron.
Qui fait. Non,
Chiron l'ancienne.
A remplacé l'Aveyron. Et l'Aveyron. Un département, ça y est. Non, la Chiron fait 1500 chevaux. Donc c'est énorme. Et la Veyron.
1000, ça va, on est loin.
La Veyron faisait 1001 chevaux. Pourquoi le 1, on se demande, mais il faisait 1001 chevaux. Mais non, mais attends, tout ce qui est 1000 chevaux, c'est démentiel déjà à l'heure actuelle. C'est stratosphérique.
Ouais, c'est pas mieux que mes Laguna.
Qui faisait 110. Donc ouais, tu t'imagines ouais, 10 fois plus.
Oui.
10 Laguna, 10 accélérations de Laguna d'un coup, tu vois. C'est. Si, si.
Moi, je vois plus le paysage.
Ah bah non. Bah en vrai, ça fait des 0 à 100 qui vont entre 2 secondes 5 et 3 secondes. Tu passes de 0 à 100 km/h en moins
mais
de 3
c'est
secondes
ça qu'il
quoi. Non, c'est vraiment c'est pas ça qu'il te faut. Parce que là le sanglier
C'est ça le jeu pour doubler les voitures facilement.
Tu l'aurais même pas vu le sanglier.
Oui, j'aurais dépassé.
T'aurais fait coucou.
Non, à mon avis, il l'aurait même pas vu parce qu'il serait pas là à l'heure actuelle.
Non, physiquement, je serais passé à travers parce que j'aurais été trop rapide.
La vitesse du son, ça, le truc, ça serait désintégré.
Téléportation.
Bon, bah merci en tout cas pour cette petite anecdote. 1000 chevaux ou 700, on sait pas au final.
Starter, le sondage.
Nouveau sondage dans Starter. Alors, quel est le sondage de la semaine, Teddy?
Alors, ça va concerner. Les vieux de plus de 65 ans en tout cas.
Alors vieux, j'aurais pas annoncé ça.
C'est méchant.
Ça, mais les personnes de plus de 65 ans.
Les vieux.
Non, à savoir, non, est-ce que la visite médicale doit être obligatoire
oui,
pour conduire à plus de 65 ans? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne et une mauvaise idée? Encore une fois, c'est quelque chose.
On en parle actuellement.
Ça
et...
fait longtemps qu'on en parle, voilà, que ça revient sur la table régulièrement, etc. Est-ce que l'on doit, d'une manière ou d'une autre, faire une petite visite médicale pour les personnes à passer un certain âge pour être sûr qu'elles sont toujours aptes à conduire? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On vous laisse la semaine pour y réfléchir, enfin surtout demain parce que ça dure 24 heures la story. On va la mettre sur les réseaux sociaux, sur Instagram Indestar Radio, vous allez rejoindre la page si ça n'est pas encore fait, sur la page Facebook Indestar tout court. Enfin, sauf, vous mettez pas tout court, hein, vous avez compris. Il va l'avoir rejoint la page. Non, mais je sais que vous êtes intelligent. Et vous répondez au sondage en story.
Je peux te prendre au mot.
Et on fera. Bah oui, je sais. Et on fera le débrief la semaine prochaine dans Starter.
Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.